Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message après.
Ah, c'est vrai?
Ouais, en mode, ouais, moi je vous suis depuis que je suis gamin et j'avoue que j'étais sur le plateau à ce moment-là et ça m'a rendu triste, quoi.
Et ta rep?
Ouais, on s'est appelé et tout.
Mais non. Les amis, comment ça va?
Ça va et toi?
Très bien.
Ça va.
Je suis hyper heureux d'être là.
C'est vrai?
Ah, vraiment, c'est un goal pour moi d'être là.
J'aimerais trop qu'un jour on commence et quelqu'un fasse. Vraiment, ça me dégoûte d'être
ça
là.
Ça me dégoûte, franchement.
Ouais. Pourquoi j'ai accepté?
Je suis là, bon, je suis un peu en retard, j'ai un rendez-vous juste après si on pouvait aller un peu vite.
Aïe, aïe, aïe. C'est un tartine de vie qui va durer exceptionnellement 20 minutes. Je suis très content parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo. Alors, tous les trois, oui. Mm-hmm. Yes. Mais même ensemble, on n'a jamais rien fait.
Non.
Non.
Nous, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps.
T'es venu au studio là. La semaine dernière.
Ouais, c'est ça, je crois. Hein. C'est allé très
ça
vite.
Ça va très vite, les relations.
Je suis avec ça va aller, hop. Et non, c'est franchement, vrai. C'est trop cool. Bête de rencontre, je suis grave content.
C'est chiant, mais Raska, pour les gens qui ne connaissent pas, Raska YouTube, de toute façon, tous tes réseaux sont dans la description.
Merci.
Est-ce
beaucoup.
Que tu peux dire ce que tu fais? Est-ce que, quand on dit t'es YouTuber rap, ça te va ou on te rentre dans une case?
Non, en vrai, ça me va. Après, c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que j'ai commencé en 2016 où je parlais de rap,
ouais.
Et petit à petit, je me diversifie, on va dire, plus dans du divertissement rap. Je pense qu'il y a des youtubeurs qui sont beaucoup plus spécialisés maintenant que moi sur du rap, tu vois, mais j'essaye d'avoir cette vibe divertissement en amenant un petit côté rap, l'ADN de la chaîne qui est l'ADN de base de ma chaîne, quoi. Ouais. Du coup.
En fait, c'est cool parce qu'on en parlait la dernière fois, justement, c'est que t'as réussi à garder ton ADN rap et en même temps à prendre tous les codes de YouTube.
Ouais, c'est ça.
Ce qui fait que même moi, tu vois, qui suis pas un surpassionné ou pas hyper pointu avec le rap, je peux regarder tes vidéos et j'apprends des trucs en même temps.
Bah, justement, c'est un peu le but que je voulais aussi. C'est j'ai beaucoup de commentaires comme ça de gens qui je n'écoute pas de rap du tout, ce que je trouve assez fou parce qu'aujourd'hui tout le monde écoute du rap en vrai. Mais ouais. Et ils me disent mais pourtant je regarde de fou tes vidéos et du coup c'est trop bien. Ouais. C'est trop cool. En plus, si je peux faire découvrir des choses en même temps à travers du divertissement, c'est trop bien.
J'en mets.
Ouais.
Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie que Raska lance son podcast d'ASMR. C'est sûr qu'ils vont faire oh putain, cette voix incroyable.
Aïe aïe aïe, hein, ça régale. Non, ça me rappelle un peu les sources. Quand j'étais à la fac, du coup, je faisais un petit peu de radio.
Ouais.
Ah ouais?
Donc, ouais, ça régale.
Trop bien, tu faisais la radio étudiante du coup.
Ouais, c'est ça, Radio Campus.
Trop stylé, pareil, ouais. Moi aussi j'ai fait.
Ok, trop bien.
Ouais, ouais, à Brest, du coup, j'ai fait un peu de radio.
Ok, moi à Angers, je faisais de la technique d'abord. Pour une meuf qui faisait c'était une américaine qui était en Erasmus et qui parlait de bluegrass, la musique du sud des États-Unis, ouais. En mode Texas, machin. C'était pas du tout mon registre, mais c'était trop cool. J'ai appris la technique comme ça. L'année d'après, avec des potes qui avaient déjà une émission hip-hop, j'ai fait un peu de technique, quelques chroniques et des playlists et tout. C'était trop cool. Et après YouTube, quoi.
Chant, mais, ah oui, mais du coup, t'as fait un peu d'animation aussi.
Tu lançais les
scuds. Okay.
C'est ça.
Trop bien.
T'as incroyable, la radio étudiante. T'as rien, t'as un matos qui,
ouais, c'est ça.
Qui marche à moitié.
C'était trop cool parce que je faisais venir des potes qui rappaient. On faisait des sortes de freestyle, tout ça. C'était trop bien en vrai.
Ouais. Ah ouais, tu t'es régalé.
Ouais, c'était cool en vrai.
Trop bien.
Genre, t'es hyper libre un peu de faire ce que tu veux.
T'as
plus ou moins une case et c'est ok quoi. Nous, les radios étudiantes, dédicace à Radio Phoenix, et je pense à une radio 666. On en a deux, des radios un peu roots de Caen.
Okay.
Et Radio 666, des fois, tu...
Ah, le nom,
Ouais. En fait, c'est des moods différents. Triple 6, c'est vrai que c'est plutôt rock.
Ouais.
Et vraiment, des fois, tu te connectes sur le canal. Et j'étais dans la voiture, je me dis, allez, radio Triple 6. Rien.
Oh non, en dur.
Rien pendant hyper longtemps, je fais
t'entends
trop bizarre.
Juste le bruit d'une motte de foin qui...
Ah ouais. Attends. Et d'un coup, ça fait... Et vous êtes sur radio. Il y a quelqu'un qui s'est pas rendu compte. Enfin, tu vois, c'est tellement
roots.
C'est tellement roots qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait.
On a dû en faire plus d'une aussi. Hein.
Ouais, mais c'est sûr. Mais en même temps, ça fait partie du.
Et tu fais
jeu,
tes classes comme ça, c'est cool.
Complètement.
Ouais. Tu découvres. Donc, c'est clair. C'est clair.
Rivenzi, quel plaisir.
Ouais.
Non, je connais depuis un peu plus longtemps.
Ouais, ça va faire plusieurs mois maintenant.
On s'est rencontrés la première fois sur Popcorn.
Ouais, c'est vrai.
Tu faisais une chronique sur Popcorn.
C'est vrai, exactement. C'était une chronique sur
Napoléon.
Napoléon, ouais, c'était sur les uchronies et sur comment est-ce que, en gros, des événements qui se sont déroulés auraient, par pour certains historiens ou certains auteurs, auraient pu être différents et okay. comment est-ce que, du coup, cette réalité alternative, en fait, se crée et existe. Mmh. Et oui, du coup, on s'était rencontrés là-bas, ouais, exactement. Mais moi, je regardais cool. ce que tu faisais depuis déjà longtemps et du coup, c'était très cool. On avait ouais. pu échanger avant et après l'émission et c'était chouette.
Et on s'est revu plein de fois après.
Oui, après cool. festival, avec Safran Festival.
Est-ce
et
que.
Tout.
Si on dit que t'es streamer histoire, ça te va ?
Ouais, histoire.
Le sport est arrivé aussi.
Ouais, le sport aussi est arrivé, mais ouais, histoire fort, parce que ben, moi, j'ai fait des études d'histoire, justement. Quand j'ai fait le des radios étudiants, c'était okay. justement lié à l'histoire, au patrimoine.
J'ai fait aussi une fac d'histoire.
Mais non.
Trois jours.
Ah ! Trois ans.
Non, j'ai vraiment fait trois jours. En fait, j'ai juste eu 20 au bac d'histoire, je savais pas quoi faire, je me suis dit... Allez, fac d'histoire. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ah, mais c'est pas pour moi, pourquoi je suis là en fait. Et ah, après, ouais. j'ai eu la possibilité de bifurquer. J'ai fait des études de communication. La semaine d'après, je suis rentré dans une école.
Ah ouais,
j'ai eu la chance. Il y a eu un mec qui est parti, j'ai pris sa place.
Mais bon, c'est la fac classique, quoi. T'arrives, t'es en mode, bon, qui restera-t-il à la fin du premier mois. Et déjà, ça a bien écrémé, quoi, tu vois. Mais ouais, du coup, émission histoire avec des historiens qui viennent parler de leur sujet. La semaine dernière, cette semaine, justement, on avait une invitée qui est venue nous parler de la guerre d'Algérie, puisqu'il y avait les accords d'Évian qui fêtaient leurs 60 ans, justement. Donc le cessez-le-feu entre la France et l'Algérie, et donc du coup on est venu parler à ce sujet qui un sujet encore un peu sensible mais qui est vachement intéressant. Et donc ouais, le but c'est de mettre en avant ce que font les historiens et tout, donc voilà ce qu'on fait sur la chaîne.
Trop bien, moi j'adore ce que tu fais, et surtout j'aime beaucoup le fait qu'aujourd'hui Twitch soit tellement ouvert qu'il y ait la place aussi pour un truc qu'on pourrait se dire, oh, c'est tellement niche, et en fait pas du tout.
Bah ouais, parce qu'en fait, en gros, les historiens, quand je leur dis, en fait, vous allez pouvoir venir et vous allez pouvoir parler longtemps de votre sujet, ils sont en mode, ah ouais, et tout, mais on a combien de temps 15, 20 minutes? Je lui dis, vous avez 2 heures. Ils sont en mode, ah, on a 2 heures? Et j'ai dit, bah oui, enfin, vous avez le temps, et puis après, bah, c'est ma chaîne, donc tu vois, c'est un peu comme YouTube, tu choisis le format, il n'y a personne qui te contraint à te dire, ah, mais on a une autre émission après, il va falloir vite speeder pour terminer. Et en fait, bah, ils ont le temps de discuter, et comme on a le chat en plus en direct sur Twitch, et bah, si les gens n'ont pas compris un truc, ou s'ils ont envie de. Que l'historien réponde à une question particulière qui les touche, et ben on peut poser la question, le demander à l'historien. Et donc des fois t'as des historiens qui sont super calés, super reconnus. On a eu des professeurs du Collège de France, on a eu des historiens qui ont été traduits dans des dizaines de langues qui sont venus, et ben ils sont à même de pouvoir t'expliquer des trucs qui sembleraient être compliqués, mais en fait vu que eux ils sont pédagogues, et ben ils arrivent à te l'expliquer assez simplement. Et c'est trop bien.
Est-ce que toi ce devoir de mémoire à travers l'histoire, c'est un truc qui te passionnait déjà il y a longtemps? Moi par exemple, le devoir de mémoire, je l'ai compris il y a très peu de temps, dans le sens où l'histoire, moi, au collège, lycée, ça me passionnait pas du tout. J'avais pas de prof qui me rendait le truc. Pour moi, c'était un truc mort, tu vois.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur cette période-là, collège, si t'as un bon prof, ça y est, tu
ça change tout.
Exactement.
Parce que moi, je kiffais pas, et à partir de la quatrième, oh, c'est trop stylé, tu vois.
Ouais, complètement.
Mais moi, j'avais un prof collège incroyable, tu vois. Il avait un feu sur la langue, il nous faisait le cours de greffe antique.
Okay.
Alors, Ulysse, l'Odyssée, tu vois. Et donc, du coup, son élocution particulière, elle était marquante. Quoi, ouais.
Tu devais retenir 1000 fois plus en fait.
Bah moi c'était appuyé quoi.
C'est ça.
Et en fait et je sais pas si c'est le devoir de mémoire, mais c'est aussi le fait de raconter des histoires, c'est de découvrir des choses. En fait bah je trouve qu'il y a des profs qui tu vois ont une capacité à, t'as l'impression qu'ils te racontent un film quoi, tu vois. Mais non, mais c'est de l'histoire quoi. Et moi j'adorais ce truc là et après bah l'histoire, moi j'en suis venu à la fac parce que quand je fais un bac S.
Ouais.
Mais je cartonne en histoire, quoi. Tu vois, moi, c'était une matière que j'adorais. Mais bon, la S, feu, S, hein, bien sûr.
C'est vrai.
On me dit c'est la voie royale pour réussir et tout. Donc, j'y go, j'y vais. Puis j'ai plutôt des bonnes notes en matière scientifique. Sauf que quand j'arrive en première, bon, ça s'écroule, quoi. C'est 2 ans horribles. Et à la fin, quand tu dois faire tes vœux pour les années post-bac,
les fameux,
et j'ai aucun vœu qui est accepté, tu vois, dans des écoles d'ingé ou de prépa, etc. J'ai.
Et au fond, personne toi, t'avais très envie de le faire?
Je sais pas si j'avais très envie de le faire. En fait, j'étais en mode, parce que c'est la filière qui veut ça, tu vois.
Suite logique.
Mais je crois que je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment, quoi, tu vois. Et donc, un peu comme toi, au final, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Bon, l'histoire.
T'as eu 20 en histoire aussi?
Non, je suis tombé sur la guerre d'Algérie, j'avais pas sorti une date, mais j'avais quand même eu 14.
Ah, okay. Est-ce que tu t'es vengé, du coup, hier, sur ce live?
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on va parler de la guerre d'Algérie.
T'es de quelle année, toi?
Moi, je suis de 95.
Ok.
Toi, t'es de?
97.
Ouais, donc ça, on est peu préparé, quoi, tu vois.
92. Aïe, aïe, aïe. Le daron de la table.
Ça va, quel daron. Et quel daron.
Ah oui, c'est clair.
Les 30 glorieuses, c'était comment?
Aïe, aïe. Je sais pas, mais les 30 ans, je te dirai très vite. Dans quelques mois.
Ça arrive.
Ah, oui. Ça arrive.
Mais ouais, du coup, l'histoire, c'est arrivé là. Et après, du coup, devoir mémoire, je sais pas si c'est ça. Parce que tout le monde, l'histoire, ça touche plus ou moins les gens, et j'ai pas envie de saouler les gens avec ça. Mais ce qui est cool, c'est au moins de battre en brèche des idées reçues, comme le fait d'être historien. L'histoire, ça bouge pas. L'histoire, c'est inerte et maintenant, on sait que l'histoire, c'est comme ça et ça bougera jamais.
Est-ce que ça bouge pas ou est-ce que quand même on se rend compte de certains éléments où on raconte l'histoire par un certain prisme et mais... après coup, on se dit « Ah, en fait, l'histoire n'était pas exactement celle-là. »
Ouais, ou en tout cas, du moins, on la raconte différemment. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on était très porté sur l'histoire économique, en mode « L'histoire, ça se raconte par les chiffres. C'est qu'est-ce que ça veut dire ?» Et t'en sors aujourd'hui une... Enfin, t'en sors une réalité générale, voilà, on sort toutes les archives écrites, les registres, et en mode ok, donc si on a une chute du prix du blé, ça veut dire qu'il s'est passé ça. Et
c'est je crois que c'est ça qui me saoulait un peu aussi.
Ouais, tu peux avoir
la
ça.
La manière dont on la prenait de manière purement chiffrée.
Et moi, il y a un truc que j'adore en ce moment et que je redécouvre, c'est le travail anthropologique. En gros, maintenant, ce que vont faire les historiens, c'est aller regarder le parcours de vie des personnes qu'ils vont étudier. Okay. Il y a un travail que moi j'adore, c'est celui de Christian Ingrao qui a écrit un bouquin qui s'appelle Croire et détruire. C'est un bouquin qui est possible parce qu'à la fin des années 80, à la début des années 90, pardon, il y a la chute du rideau de fer. Et en fait, Christian Ingrao, donc, qui est historien, va aller dans les archives soviétiques qui s'ouvrent à ce moment-là et qui sont plus bloquées justement par l'affrontement bloc de l'Ouest, bloc de l'Est. Il y va et en fait, il va travailler sur ce qu'on appelle les Einsatzgruppen. Et les Einsatzgruppen, c'est ces troupes de choc qui se baladaient sur le front de l'Est et qui allaient tuer des femmes, des enfants parce qu'ils étaient juifs. Que ce soit par le gaz, par les fusils. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans les archives, et il va tomber sur un groupe de personnes, et il va se rendre compte que tous ces mecs-là, c'est des doctorants, des mecs qui ont des maîtrises en philo, en géographie, en histoire, et il va se demander, mais pourquoi est-ce que des mecs qui sont considérés comme des élites dans leur pays, tu vois, en termes d'études, se retrouvent à aller mettre des balles dans la tête à des enfants et à des femmes. Et donc, dans leur parcours, il va étudier leur parcours, comprendre leur parcours politique depuis l'université, comprendre qu'en fait, la plupart étaient dans un terreau fertile qu'on appelle, enfin, les mouvements d'extrême droite nationalistes, de cette époque-là, dans les années 20-30. Et donc, il en est venu à la conclusion de comment est-ce que tu veux que un système démocratique, donc qui était la République de Weimar entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, existe quand la plupart de tes futures élites sont déjà dans un creuset nationaliste d'extrême droite, etc. Et donc il a un peu moi en tout cas quand j'ai lu son bouquin c'était très très fort. Et aujourd'hui il y a pas mal d'historiens qui empruntent justement cette voie-là d'études de cas particuliers de personnes et de parcours de vie quoi. En fait c'est vraiment super chouette.
Moi je suis en train de me raccrocher carrément, je découvre presque à 30 piges ce truc de l'histoire, des cycles aussi, des cycles qui se répètent. Mais... en fait plus tu connais l'histoire plus t'arrives quand même à être un peu éclairé aujourd'hui et à dire on va pas refaire les mêmes choses. Et tu vois, tu parlais de la guerre d'Algérie. Moi, mes grands-parents, ils sont pieds noirs. Okay. Et ils n'ont jamais parlé de la guerre d'Algérie. Donc, ils ont fui la guerre d'Algérie.
Ouais, bien sûr.
Ma grand-mère était infirmière, donc elle était dans la résistance, etc. Mon grand-père, il était pareil sur le front, mais pas côté français, tu vois, côté Algérie, quoi. Et donc, du coup, tout était hyper compliqué. Ils ont vécu des trucs, mais hardcore. Et c'est à moi qu'ils ont commencé à en parler, les petits-enfants, alors que à ma mère, mes oncles, tantes, ils n'en ont jamais parlé. Okay. Et là, je suis en train de me dire, parce que là, ma grand-mère va plutôt mal, parce qu'il commence à être vieux. Et du coup, là, je me suis dit, il faut absolument que je retourne en Normandie et que j'aille enregistrer une heure et demie, deux heures, tu vois, juste pour avoir une marque en fait, une marque de nos anciens.
Touchant la voix d'une personne âgée qui te raconte quelque chose, je trouve que ça.
Bah ouais, c'est ça. Et puis il y a le temps qui, du coup, tu sens que ça lui tient à cœur, etc. Oui. Bah, c'est rigolo, tu vois, qu'elle a décidé de sauter presque une génération. Ouais. Et
mais parce que c'était tabou. Après, eux, en fait, après, ils sont arrivés en France, on leur a dit, mais vous n'êtes pas français. Et du coup, en fait, ils sont partis à l'étranger. Ouais. Et donc, ils sont arrivés en France il y a 15-20 ans pour la retraite.
Ce qu'expliquait l'historienne Raphaël Branche pour la carte d'Algérie, pour faire court, c'est que justement, comme c'était pas considéré comme une guerre, c'était super compliqué d'en parler. Parce que, en fait, les gens leur disaient, même pour les anciens combattants côté français qui étaient allés faire l'Algérie, parce que c'est déjà ceux qui ont fait l'Algérie, c'est le contingent, donc c'est ceux qui faisaient le service militaire. Donc en gros, tu faisais ton service militaire, tu disais non mais en fait tu vas pas faire ton service militaire dans le sud de la France, tu vas le faire en Algérie. En fait, t'arrivais là-bas et tu te rends compte que c'était chaud quoi. Et en fait, quand ils sont rentrés, c'était compliqué de discuter parce qu'en gros on leur dit mais t'as pas fait, enfin c'était pas la guerre quoi. Si, c'était la guerre, et donc en fait il y a un silence qui est très difficile à briser aussi. Et j'en parlais avec les gens justement sur le live après, et les gens disaient bah ouais moi aussi j'ai mon grand-père qui l'a fait, ma grand-mère qui était...
J'ai mon arrière-grand-père qui l'a fait.
Ah ouais.
Ouais. Qui est toujours vivant.
Et il t'en a parlé?
J'ai pas trop de souvenirs, mais je me souviens qu'il en avait abordé le sujet. Il m'avait donné juste un livre. Il avait pas plus abordé les choses. Il m'avait donné un livre sur tout ça.
Ah ouais.
Ouais. Enfin, une sorte de. J'étais petit, donc c'était une bande dessinée.
Qui avait pas la flemme un peu.
Peut-être. Non, peut-être qu'il voulait, je sais pas, transmettre quelque chose. C'était à travers une bande dessinée en fait sur tout ça.
Ah, c'est pudique quand même. Tu es en mode tiens, regarde ça et tout. Peut-être que tu vas comprendre un peu mon histoire.
Ça va être compliqué d'en parler. Moi, je sais que les premières fois où ma grand-mère m'en a parlé, j'ai compris pourquoi elle en avait pas parlé. Tu vois, elle raconte des trucs de. Elle court parce qu'elle avait apporté des médicaments à un village encerclé par l'armée française. Donc elle venait pour le médicament et tout. Et en fait, sur le chemin. L'armée française leur tire dessus. Elle tombe. Il y a quelqu'un qui tombe sur elle et qui meurt en fait. Et elle sent les impacts de balles et tout. Elle se dit bah ok, cette personne est en train de me sauver la vie par son décès. Enfin, c'est que des trucs hardcore. Ok, je comprends. Mais ce qui est fou, c'est que moi, tu vois, je viens de Normandie et j'ai vécu toute ma scolarité avec des anciens déportés de camps de concentration qui venaient nous raconter, etc. Donc on a plein de mémorials, plein de musées et tout, donc c'est vraiment l'antre du débarquement, quoi. Mais du coup, on avait ce contact-là vraiment de vrais gens qui venaient nous raconter. Et là, la guerre d'Algérie, on va arriver à un moment où c'est encore hyper tabou et où les gens vont mourir, en fait. Donc, il n'y aura plus personne pour nous raconter le truc, quoi.
Ouais, c'est ça. Et bah, y a des documentaires là, qui sont faits, justement. Arte qui a fait ça aussi sur justement le fait de faire parler les témoins, mais c'est dur parce que aussi t'as la mémoire pied noir, donc des gens qui étaient français d'Algérie qui ont dû quitter une fois que l'Algérie était indépendante. T'as la mémoire algérienne aussi, et en Algérie il y a une histoire officielle et c'est fait que du coup tu peux pas dire non plus ce que tu veux et c'est compliqué de faire des recherches quand t'es historien, et du coup il y a la mémoire aussi française du coup de notre côté à nous et les militaires qui y étaient, et on se rend compte aussi que t'as ces mémoires qui sont en concurrence aussi et
Moi, je me suis toujours demandé ça, si l'histoire, en fonction du pays dans lequel elle est racontée, est-ce qu'elle peut être un petit peu.
Ça dépend des sujets.
C'est ça.
Ça dépend forcément des sujets.
C'est Booba qui disait ça dans un son.
Allez, on commence les rêves.
Allez, ça commence.
Typiquement sur l'Allemagne, nous, on a baigné dans l'Allemagne nazie, etc. Ouais. Quand je dis nous, c'est. De toute façon, en France, de manière éducative, mais nous, encore plus en Normandie, où tu sais, il y avait le truc d'occupation, tu avais les anciens qui nous racontaient des trucs et tout, de couvre-feu, etc. Je me suis toujours demandé, mais comment les Allemands, on leur apprend, eux, l'histoire, tu vois? Est-ce qu'ils sont dans une espèce de culpabilité chelou, ou est-ce qu'en fait, c'est un peu nuancé quand même?
Si, ils ont un sentiment de culpabilité, parce que je crois qu'ils en parlent quasiment tous les ans à l'école, je crois.
Ouais.
Et après, aujourd'hui, les plus grands spécialistes mondiaux de la Seconde Guerre mondiale, ils sont allemands. Et aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale, c'est un océan, c'est un continent dans le milieu de l'histoire, quoi, tu vois. Les Allemands, c'est aujourd'hui ceux qui sont les plus, les plus connus, c'est des livres de chercheurs allemands. Du coup, ça dépend des sujets, tu vois. Mais forcément, ça va dépendre de régime en place. Tu vois, nous, on est dans un régime où quand même, les historiens peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir la liberté de recherche. Même si c'est compliqué sur certains sujets d'avoir l'accès aux archives, mais ça va quand même. Mais c'est sûr que tu vas voir peut-être en Russie, c'est plus compliqué faire un travail sur le bloc de l'Est, sur le regard sur l'URSS, même dans des pays d'Amérique du Sud encore, je pense. Donc voilà, ça dépend forcément.
Chambé. Et là, vous vous dites, mais c'est un podcast sur le nazisme. Alors, c'était pas dans le titre.
Ouais, désolé, hein, mais ça pas du tout.
Non, mais franchement, c'est hyper intéressant. Je suis sûr que ça vous intéresse aussi. Sinon, dites-le, n'hésitez pas. Je vous ai posé des questions sur Instagram, vous le savez, c'est un peu le délire de Tartine de Vie. Des questions sur la vie, et je vous propose qu'on y réponde.
Si Tartine ça
vous
va. De vie, non. Ce générique.
Alors, celle-là, je l'ai rajoutée juste avant là, parce que. Elle m'a mindfucké, après j'ai fait « Ah ok ». Raconter une expérience incroyable dans un lieu pas ouf ou une expérience pas ouf dans un lieu incroyable. Du coup là, vu que je l'ai rajouté là, je triche un peu, mais du coup j'ai réfléchi, donc j'en ai une si ça pouvait faire gagner du temps.
Vas-y, je suis très chaud que tu commences.
Parce que pareil, en fait quand je l'ai lu, j'ai fait « C'est incroyable, mais qu'est-ce que je vais trouver ?» Et alors, il y a 2 semaines, je suis allé dans un lieu... Alors là, désolé pour tous les Normands, vous savez mon chauvinisme, mais je suis allé dans un lieu qui, sur le papier, n'est vraiment pas ouf, qui est le Mont-Saint-Michel, que j'ai fait genre 15 fois, donc je pense que c'est aussi pour ça, tu vois. Quand j'ai dit à mes parents, je suis au Mont-Saint-Michel, ils m'ont fait, tu nous as cassé les couilles toute ton enfance et tout, à dire, c'est l'endroit le plus ennuyeux du monde et tout. Et là, j'y suis allé, mais j'ai fait un truc qui est assez stylé et qui est sous-côté de fou, c'est que au départ, j'y suis allé l'après-midi Disneyland, impossible de se déplacer, etc. Ouais. Donc je me suis cassé. Et en fait, je suis retourné. Il y a Juliette Léniel, d'ailleurs, j'étais avec elle et elle a fait des photos qui sont extraordinaires sur son Instagram. Et on y est retourné le soir. C'est-à-dire que maintenant, tu as une navette et en fait, tu as des navettes jusqu'à 23h.
Ah ouais.
Et il faut savoir qu'à partir de 19h, si tu y vas, tu payes moitié prix sur le parking, qui est quand même, je pense, à 15 balles. Donc, moitié prix, tu es quand même content, tu vois. Okay. Et en fait, tu as des navettes qui t'y emmènent. Et donc, en fait, c'est juste que le mont reste ouvert Donc toute la nuit, tu peux rester toute la nuit.
La vie nocturne du Mont-Saint-Michel, il y a de la boîte de nuit,
il y a du club. Je vais dire, mais putain, l'ambiance. Alors c'est dead, il y a rien du tout, mais c'est complètement mort. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, bon, ils te ferment les musées, ils ferment les crêperies, les trucs, même les jeux souvenirs et tout, mais c'est pas ce qui nous intéressait de fou. Et en fait, à 19h, donc t'y vas, et tu commences, t'arrives marée basse, et ça commence à arriver la marée haute, et t'es dans un endroit désert qui est incroyable. Mais genre vraiment, Mont-Saint-Michel de nuit, c'est incroyable. Okay. Et après, t'as la partie du coup où tu vois toute l'eau qui encercle Mont-Saint-Michel parce que c'est parmi les plus grosses marées d'Europe. Donc c'est hyper impressionnant. Tu vois vraiment l'eau qui arrive et qui t'encercle. Et après, ça passe en mode nuit. Okay. Et là, c'est chemin de traverse Harry Potter. C'est incroyable, vraiment.
On m'a toujours dit que c'était ultra stylé. Moi, j'ai juste les galettes en tête et je me dis.
Ah oui. Et après, t'as les restaurants qui sont ouverts parce qu'il y a des hôtels sur le Mont-Saint-Michel. Donc, t'as les restaurants. Donc là, on a fait genre Mère Poulard, le classique avec l'omelette de la Mère Poulard, etc. Et après, on s'est baladé, mais genre pendant 2 heures. Parce qu'en fait, le mont, tu peux vraiment. Enfin, il y a 1000 recoins et tout. C'est extraordinaire. Et j'avoue que là, c'était genre une de mes meilleures expériences dans un lieu nocturne. Dans un lieu qui sur le papier pour moi était pas ouf.
Okay.
Surtout après une expérience du matin, fin de matinée où on pouvait pas se déplacer, où on s'est dit mais c'est nul à chier quoi.
Et en fait en gros tu t'es régalé.
Régalade.
Après t'as triché. Ça reste quand même cool dans le Mont-Saint-Michel. C'est quand même un lieu, tu vois, c'est beau.
Oui, mais alors si t'y vas dans une période où il y a trop de monde, c'est éclaté.
J'y suis déjà allé une fois. L'enfer. Non, c'est horrible.
C'est horrible.
Et la mère Poulard, ça a changé, la petite dame qui faisait son truc.
C'est fait, oui. Ça, c'est...
Maintenant, t'as l'omelette, t'as les pâtes, t'as la pizza à la mère Poulard.
Je trouve que quand on est. Enfin, surtout quand on est jeune, on a grave envie de voyage, etc. On se dit tout de suite, il faut voyager hyper loin pour que ça soit stylé. Alors qu'en vrai, en France, il y a plein de trucs magnifiques.
De fou.
Je ne pourrais rien citer puisque je ne connais rien. Mais
non, mais il y a trop d'endroits extraordinaires.
Il y a plein de trucs cool.
Tu vas autant les volcans d'Auvergne que la Camargue. Enfin, t'as mille endroits ouf à faire.
Ouais, des villes et tout. Enfin, tu vois, même dans le nord de la France et tout. Lille, tu vois, moi, la première fois que je suis allé, c'est trop stylé.
Ouais, j'ai ma meilleure pote qui habite là-bas. Je suis allé la voir trois fois. C'est trop bien. Genre vraiment.
Ouais, c'est très bonne bière à Lille, évidemment. Très bon bar.
Par contre, le Welsh.
Wow. Voilà, donc, ça c'est bon plan pour les gens qui veulent le faire, il y a vraiment personne, voilà. Et après vous repartez à 23h, dernière navette, et en fait vous repartez et il y a la largeur de la table pour repartir, et sinon c'est que de l'eau en fait. T'es pratiquement immergé et t'as l'impression d'être genre Totoro, tu vois, vraiment t'as le bus qui part, tu vois le Mont-Saint-Michel de nuit, etc. Trop stylé. Donc ça c'est une expérience stylé dans un lieu pas ouf.
Ok.
Lieu demi pas ouf parce que ça reste.
Oui, non, bien sûr, on est d'accord que c'est impressionnant de fou. Mais après, tu vois, on s'est dit, on avait envie de tout regarder sur le Mont-Saint-Michel. On a commencé à regarder un docu sur le Mont-Saint-Michel. Trop chiant. Trop chiant. Et là, tu fais, merde. Donc j'ai presque envie, Mont-Saint-Michel, si vous me regardez, si le Mont-Saint-Michel me regarde, le mont lui-même, j'ai grave envie de faire un reportage stylé là-bas. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc un peu cool.
Oui, c'est sûr. Tu vas trouver. Merci.
Et moi, pour répondre à la question, du coup. Je suis allé dans un lieu qui me hypait. Je suis parti en vacances à Athènes.
Ouais.
Du coup, moi, j'ai un petit côté, un affect pour l'histoire, surtout tout ce qui est antique, etc. Donc là, il y avait l'Acropole, toutes ces choses-là. Je trouvais ça. Je me suis dit, ok, ça va être trop lourd. Et en fait, c'est beaucoup de ruines. Et on te dit, imaginez. Et du coup, j'étais là. Du coup, je suis parti.
J'ai un Oculus en fait, donc vraiment.
Mais du coup, ça va parce que moi j'ai moins de 25, mais sinon tu payes 15 balles l'entrée et tu vois des ruines, tu vois. Enfin, après, bon, c'est. Je pense que pour les gens qui sont vraiment passionnés et pas à demi comme moi, t'as vraiment ça te marque vraiment. Mais moi j'étais là, ok, c'est.
Imagine.
De bout de pierre, quoi. Imagine. J'étais là, Et du coup, c'était un lieu qui avait l'air fou sur le papier. Mais au final, j'ai passé un bête de moment quand même parce que du coup, avec ma petite amie, on a fait un jeu où on se faisait chacun notre tour un faux guide touristique où on racontait n'importe quoi à chaque fois qu'on avançait devant un bout de pierre. Et en fait, j'en garde c'est un trop bon souvenir parce qu'on a fait que de rigoler.
Vous avez transformé l'expérience.
C'est clair. Mais du coup, en fait, c'est un peu la frustration souvent. Et en fait, on dit aux gens, si t'aimes l'histoire antique, peut-être plus aller en Égypte parce qu'en Égypte, t'as beaucoup de temples qui sont encore debout. Alors que c'est vrai que la Grèce, souvent.
Ouais. Mais après, il y a quand même. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelques bâtiments qui sont entre guillemets encore
mais
en état.
Mais il y a beaucoup de ruines, il y a beaucoup de trucs un peu à raser comme ça en mode.
Ouais. Là, c'était ouf, ok.
Je te jure.
Mais est-ce que, parce que je rigolais avec l'Oculus, mais en fait, est-ce que l'avenir, c'est pas de pouvoir visiter un truc en ruine, tu mets l'Oculus et en réalité augmentée, tu vois, t'as même pas que l'Oculus d'ailleurs avec ton téléphone, en réalité augmentée, tu vois l'endroit
que
c'était.
Ça va se faire, tu vois, je pense. Typiquement, je pense que ça va leur servir, quoi, tu vois, à mon avis. Mais moi, ce que je trouve cool dans les lieux comme ça, c'est que bah, typiquement les plages de Normandie, ça m'avait fait ça la première fois que j'y étais allé il y a quelques mois, début d'année là. C'est qu'en fait tu te rends compte des distances, des lieux et tout. Moi je trouvais ça trop cool, tu vois. Genre quand tu vas voir Omaha Beach pour la première fois, t'es en mode ah du coup c'est grand comme ça et c'est par rapport à la plage, c'est grand. Tu vois, rien que ça déjà, ça te projette un peu quoi.
De fou.
Et, non, mais vrai, je comprends la frustration, je rigole, mais je comprends carrément la frustration. T'es en mode ok, lourd le insane là, le palais, hein, vraiment. C'était
et encore avant des dinosaures ici, tu vois, super. Vraiment rien.
Imaginez.
J'ai payé 25 balles, là ça commence à me péter les couilles.
Mec, tu veux faire pareil dans mon jardin, imaginez.
Je vais payer l'entrée, c'est bon.
Je rigole, en vrai, c'était quand même très très cool. Quand tu montes tout en haut, l'acropole et tout, là, c'est très cool. Mais
après, quand t'as des grosses attentes, ça peut être décisif.
C'est ça, en fait. Ouais. Je pensais que c'était pas autant en ruine, quoi. Mais bon, ils ont subi des attaques de tous les Perses,
Une étoile sur Google.
Pas ouf. Aïe, aïe, aïe. Pas Griff, ouf. Toi, t'as une expérience.
Une expérience cool dans un lieu pas ouf. Enfin, pas ouf. Je sais pas, c'est un peu dur
de dire ça.
Ou l'inverse.
Ouais, c'est plus le fait que j'ai gagné un concours d'éloquence à la fac,
okay.
Mais dans une toute petite fac. Du coup, ce qui fait qu'on était pas beaucoup.
On était 4.
Du coup, on était moins de 10 participants.
Ok, ah, mais ah, c'est quand même bien.
C'est bien.
Ouais, ça va, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était, et ça a été une révélation de ouf de faire en fait, en gros, des concours d'éloquence. C'était en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, t'as une problématique qui t'est posée. Par exemple, moi, j'avais eu. Mais c'est, nous, on avait des problématiques. Légère, ça c'était cool. Des fois, t'as des problématiques très graves sur, voilà, sur l'écologie, crise sanitaire. Nous, on avait des questions type le col de l'utérus est-il une étape du Tour de France ?
Et Attends, mais c'est hyper compliqué.
Et du coup, il y en avait un qui défendait le oui et un qui défendait le non. Moi, j'avais eu Claude François était-il au courant ? Et il fallait défendre oui et le non, tu vois, pour le coup. Et...
Ah, mais du coup, c'est de la joke en fait. Ouais. C'est juste pour la dynamique de l'argumentation.
Mais après, t'as des
quoi.
Mecs qui viennent.
Mais
qui
c'est une forme de stand-up.
Ouais, après, faut que t'argumentes. T'as tes profs qui sont là, etc. Et c'était cool. Et moi, j'étais j'étais le seul membre de la filière d'histoire à faire le truc. Parce que c'est un truc qui est trusté par les gens en droit. Tu vois, tous les futurs avocats, c'est de la plaidoirie un petit peu. Donc eux, ils kiffent ce truc-là.
Est-ce qu'ils te prenaient de haut un peu?
Mais oui, de ouf.
Ah, ouais. Oh, l'histoire, j'ai le défoncé.
En mode, parce que j'étais l'un des premiers de la filière d'histoire à faire. Et c'était en mode, bon, on va essayer les participants. Donc, c'était une sorte de cérémonie première fois qu'ils ouvrent le truc. Les participants et tout. Et en fait, je fais une première. Il y avait un premier tour. Et je fais une première problématique, etc. Et je suis à chier. Mais vraiment, je suis nul. Le texte est mal préparé. L'interprétation est pas ouf. Et donc, c'est horrible. Mais j'arrive à me qualifier au tour suivant parce que l'UCL qui s'était qualifié n'était pas dispo le jour où en fait. du coup, tu vois, je suis en mode.
Là, t'es en train de me dire que t'as éliminé
bizarrement,
les 9 personnes.
Tu l'as poussé dans un cage d'escalier.
Ouais,
c'est ça.
Elle n'a pas envoyé de message, effectivement, ce jour-là.
Personne ne s'est présenté, donc je suis arrivé premier.
C'est exactement ça. Et en fait, au moment de la cérémonie d'ouverture, ce que j'ai pas précisé, c'est que le mec qui présentait justement ce concours, il a dit on a un représentant de la filière d'histoire, vous pouvez préparer vos tomates.
Et horrible. Ah non, mais c'est non,
mais après, c'était un peu sur un ton de la joke, tu vois. Mais j'étais en mode.
Et maintenant, on accueille le nulos.
Et c'est ça. Et en gros, quand il annonce les qualifiés, il dit bon, on a un lucky loser avec nous qui pourrait être qualifié pour le tour suivant. C'est voilà.
Donc, ah oui,
d'accord, ok, ça clash un peu, tu vois.
Est-ce que ça t'a pas donné la rage un peu?
Et du coup, avec un pote qui lui avait une belle plume, etc., on a bien bossé sur le deuxième texte.
T'as
et
eu
tout.
Un cosplay, tu vois.
Et ouais, bah non, on a écrit à deux, tu vois. Mais oui, j'ai un ghostwriter, effectivement. Et en fait, on a bossé le truc à deux. Et je tombe en demi-finale contre genre le crack, tu vois. Genre vraiment celui qui. Genre aligne masterclass sur masterclass.
Que des
KO. Il s'appelait Perrin, le mec. Et vraiment le gars, futur avocat. Enfin, tu sentais que le mec était chaud, quoi. Et du coup, on tombe sur. Claude François était-il au courant? Et en fait, le gars fait pas son premier. Et j'avais mes potes qui étaient venus genre pour me saucer et tout en mode let's go. Et là le mec passe et là il finit, tout le monde se lève, applaudit et tout, et t'as tous mes potes qui retournent en mode
rapport tenders, vraiment
ça va être chaud. Ça va être,
il y a un côté un peu assez,
en mode ça va être chaud. Alors, moi je suis en mode, je suis comme ça, tu vois, je me dis ok, bon, on a bien préparé le truc et tout. Et là j'arrive sur scène et là je commence déjà à imiter, parce qu'il était très maniéré celui qui présentait. Justement,
c'est ce que je voulais demander, est-ce que justement comme dans un battle de rap, est-ce que tu
c'est
peux reprendre
ça.
Un peu
exactement ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé une tomate et je lui ai dit si tu trouves que la prestation est pas assez convaincante, je te laisserai me jeter une tomate si tu veux.
Toi,
t'as
fait pouah,
let's go. Et du coup, tout le monde a applaudi, j'ai dû m'arrêter de parler, tu vois, au moment.
Ah ouais, mais là t'as déjà gagné en fait.
Je commence le truc et tout, je fais des vannes un peu osées. On était genre un mois après Charlie Hebdo. et je fais une vanne sur Charlie Hebdo, tu vois, par exemple.
Okay.
Et du coup, il y a des gens qui rigolent, d'autres qui sont en mode, mais c'est ouf qu'ils tentent ça. Enfin, du coup, on tente un truc, je reprends des paroles de Claude François, etc., etc. Et à la fin, moi, j'ai l'impression que c'est ouf, tu vois, d'y avoir 300 personnes dans l'amphi, et t'as l'amphi qui se lève et qui applaudit, et t'es en mode, let's go, le truc de ouf, tu vois. Et donc, délibération, et je suis éliminé à ça, tu vois.
Okay.
Et genre, tout le monde vient me voir, me dit, mec, c'était trop bien et tout, machin. Et donc, je suis éliminé en demi-finale, et l'année d'après, je me présente et je gagne l'édition l'année suivante, tu vois, pour le coup.
Et t'es accueilli comme un roi un peu l'année d'après
Pas comme un roi, mais en tout cas, je sais qu'il y a des profs qui t'aiment, vous allez refaire cette année et tout, machin. Okay. C'est bien qu'il y ait la filière histoire qui aille, qui aille le faire et tout. Okay.
Plus de tomates là.
Ça paraît plus de tomates à ce moment-là. Mais du coup, j'étais content, tu vois. Donc, c'était un truc cool dans une fac pas si grande que ça, mais avec un événement chouette qui réunissait la fac et tout. Et souvent, je trouve que la fac, elle est, quand t'es étudiant, tu vas juste en cours et tu retournes dans ton appart étudiant, tu vois. Et c'était cool, ça permettait aussi de. Ou en soirée. Un peu de vivre à la fac autrement que juste par les cours et d'essayer d'investir un peu la vie étudiante. Et j'avais trouvé ça super cool.
Toi, c'est stylé. Les trucs d'éloquence, moi, ça m'a toujours fait. Bizarrement, ça m'a toujours fait un peu bader. Alors que j'ai déjà fait des conférences devant 1000 personnes, des trucs, tu vois, où le public me fait pas peur. Mais j'avoue, ce truc de battle un peu, je suis toujours un peu en mode, putain, il va y avoir un gagnant à la fin, ça me fait.
Et quelques années après, j'avais été contacté par, vous savez, ils avaient une émission, le Grand Oral, ils avaient fait une émission. Ils m'avaient contacté pour aller faire l'émission et tout. Mais le niveau était super élevé. En vrai, tu sais, je streamais déjà à ce moment-là et c'était compliqué de trouver du temps. Mais ils m'avaient proposé de venir le faire parce qu'ils étaient tombés sur un article qui parlait du coup que j'avais fait ce concours d'éloquence,
C'est ouf, ça me fait penser au. Vous avez vu le docu de Dorelsan Montre jamais ça à personne.
Ça, c'est mon frère, Aurel.
Moi, j'avoue que je suis naze, je l'ai pas regardé.
Tu l'as pas regardé?
Non. Ah oui, incroyable.
L'expert rap, tu t'es pas dit? Bah, en plus,
mais en fait, c'est
faire
que
une vidéo,
j'ai eu pas mal de réactions à ça. C'est que dans la dernière vidéo, je donne mon avis sur Dorelsan. À un moment, on faisait un qui est-ce rap. Et en gros, le perdant doit donner un avis qui te met dans la merde, quoi. Et du coup, je dis que je n'ai jamais fini un album d'Orelsan.
D'accord.
J'ai un peu de mal, quoi. Voilà, tout simplement.
Et en même temps, ne jamais finir un album d'Orelsan, c'est une très belle ref de respect à Orelsan, je trouve. Pour un mec qui a du mal à finir les albums, tu vois, c'est très stylé.
Et en
fait, dedans, il fait un rap contender, en fait. Enfin, pas rap contender, mais il fait une battle.
Mais il faut que je le regarde.
Qu'il foire totalement, en fait, tu vois. Et en fait, c'est trop bien de se dire que. C'est pas parce que t'es pas dans la compétition que tu vas forcément rater ta life non plus, quoi.
Et où les mecs, ses potes le saucent et tout, et toi, c'est le moment. C'est le moment, mon frère devait percer. Et là, il perce pas du tout, il se fait déchirer par un mec random au premier tour, c'est incroyable.
Les amis, on parle de punchline. Je vous propose le premier jeu de tartine de vie, on en a jamais vu, c'est une exclu.
Oh, let's go.
Calmons-nous quand même, il n'y a pas non plus une prod énorme. On a un expert en rap, on a un expert en histoire.
Ok.
Je vous propose le jeu punchline d'histoire. Ou punchline de rap.
Ah, let's go. Très très chaud.
J'ai préparé des punchlines. Il faut savoir, c'est une punchline qui a été dite dans l'histoire. Donc dans l'histoire, ça peut être
un homme politique,
ça peut être le pape, un homme politique, ça peut être un écrivain.
Okay.
Ou est-ce que c'est un rappeur?
Très bon.
Ok.
On commence?
Vas-y, let's go.
Je suis brave, mais tu es plus brave encore et tu m'as vaincu.
Ça c'est histoire. Hein. Attends, je suis brave.
Ouais, j'aurais bien quelqu'un le dire dans l'histoire, mais un truc un peu antique, un peu ancien.
Ouais, en fait c'est ça, c'est un peu le piège parce que là il y a des termes.
Je suis brave. Ouais. Je pense pas que. Ouais, je pense que est-ce que les rappeurs ils disent qu'ils perdent, tu vois? Est-ce qu'ils ça vous vaincu les rappeurs? Pas sûr, hein. Moi, je pense que c'est histoire.
C'est votre dernier mot?
Ouais.
C'est mon dernier mot.
C'est Vercingétorix.
Allez.
C'est très bien vu. C'est très très bien vu.
L'étoile filante de l'histoire, comme on l'appelle.
Exactement. Quoi qu'il vaille mieux pratiquer la loi que la connaître, il faut la connaître avant de la pratiquer.
Ça me semble être rap quand même.
En fait, je réfléchis à la diction.
Ouais.
Et
ouais.
Tu vois comment ça peut être dit sur,
oui,
sur une
vrai.
Prod, etc. Ça on dirait plus du slam par exemple, tu vois, genre,
dans un discours ce serait stylé que tu dis ça.
Donc je pense que c'est plus histoire.
Oh, c'est chaud. Peut-être
j'adore ce jeu.
Histoire,
franchement, à chaque fois je les ai, j'étais en mode
histoire, tu m'as convaincu. C'est vrai que sur un rap c'est pas facile à dire, je pense.
C'est Charlemagne qui a dit ça.
Des bars.
Exactement.
Est-ce qu'il a vraiment inventé l'école?
Non.
Ah.
Non, ça existait avant. Ça existait avant l'époque grecque.
Il a réformé l'école.
Oui, ça, il l'a réformé. Ouais, clairement.
Dans la chanson, ça marchait moins bien.
Voilà, on a tous appris la chanson quand on était
petits.
On détestait tous Charlemagne.
Ah, on est d'accord. Ouais, Charlemagne et tout.
C'est pas de sa faute.
Rien à voir. C'est légal parce que je le veux.
Rap, je pense, à mon avis.
Ça a l'air plus rap, ouais.
Après, tu sais, c'est tellement court comme punchline que ça pourrait être. Tu sais, un empereur en mode c'est légal parce que je le veux, c'est possible, tu vois. Ou un roi.
Ou c'est une pub L'Oréal.
Oh, je vais mettre punchline ou pub.
Non, je pense que c'est. Je vais dire rap.
Ouais, rap, je pense.
Eh bien, c'est Louis XVI.
Ok.
C'est une des plus connues de Louis XVI.
C'est légal, c'est le premier rappeur.
C'est légal parce que je le veux et c'est le premier rappeur. Il y a des trucs un peu étonnants d'ailleurs. Attention, Nos poésies pèsent plus lourd que tous les pavés, mais quelque chose doit changer.
Rap, je pense. Ouais. Nos poésies, ouais.
Ça, tu vois, dans la diction, ça peut faire un truc un peu rap, tu vois, je pense, à mon avis. Puis référence au pavé et tout. Je pense rap.
Mais je pense plus à un mec qui écrit, dans le délire Kerry James, des mecs comme ça, par
une
exemple.
Une belle plume, tu veux dire.
Ouais, je veux pas mettre dans la sauce.
Je veux pas hiérarchiser. Et vous avez raison, c'est IAM.
Ok.
Ah, ok.
C'est IAM. J'avais peur que tu la connaisses, parce que je me suis dit, putain, je sais pas à quel point elle est connue ou pas. C'est dans Change.
Ok.
Je connais des gens qui sont instruits, pourtant ils n'ont aucune éducation.
Je la connais.
Ouais, je pense que c'est rap. En fait, ça serait bien.
C'est très dur, hein, parce que c'est vrai que ressorti comme ça, sans la prod, sans le truc, c'est
chaud. Ouais. Mais je pense que ça irait bien du rap, tu vois, qui, en gros, dit que le système fait des gens incompétents, tu vois, que les gens sont dans le système, mais qui restent quand même impolis et tout. Donc, j'aimerais bien ça dans du rap, moi.
Et est-ce qu'on
avis,
voit bien en interview, tu sais, un politique qui sort de l'Assemblée et qui dit ça parce qu'il est vénère?
Ouais, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait pour le coup.
Ouais,
mais...
je pense plus rap, ouais.
C'est Alpha One sur le projet avec Dean Dorvigo.
Okay. Ouais, ça allait bien celle-là.
Ouais. C'était quoi la phrase?
C'était « Je connais des gens qui sont instruits, pourtant ils n'ont aucune éducation. »
Ah bah oui, maintenant je l'ai, ok.
Bah, en fait, okay, mais, tu vois, parler sans le... c'est hyper dur.
Sans le flow qu'il a,
c'est vrai. Tu kicks bien quand même, t'inquiète.
Oh, j'essaie, c'est vrai. La prochaine émission, je le fais en kickant. Alors, je fais tout en kickant. « Même quand je ne dis rien, cela fait du bruit. » Elle n'est pas facile celle-là.
Je suis un gosse, j'imaginais quelqu'un péter. Je suis vraiment un enfant.
Pas l'art de la guerre ou un truc comme ça?
Non, moi je pense que c'est... Ah, ça...
Moi je dirais rap.
Ouais, moi aussi. Je
pense que c'est rap à mon avis, ouais.
Ouais.
C'est Ségolène Royal.
C'est incroyable.
Vraiment, j'ai vrillé, j'ai vu ça, je fais ok, punchline là, Ségo. Ton absence est la pire des présences.
Là j'ai plus l'impression que c'est une description photo Facebook.
C'est vrai, une bio Tinder. Ouais,
tu peux redire la phrase?
Ton absence est la pire des présences.
Ton absence.
Je rappelle dans historique, ça peut être aussi un écrivain et tout.
Ouais,
parce
ouais.
Que là, un politique qui dit ça, c'est trop bizarre.
J'avoue,
ouais,
même super sensible.
Ouais, c'est ça, c'est Napoléon. Ah bon?
Discours du Nouvel An, super sensible.
C'est ça.
Ça va, Emmanuel? Il a besoin de se livrer.
C'est cool, mais d'un côté, je trouve ça un peu bateau. Et je me dis, si c'est actuel, bah, c'est un peu bateau. Et du coup, c'est, je sais pas. Donc, je dirais peut-être plus histoire, ouais.
Moi je dirais rap. Je veux pas un historien. Enfin,
ça se trouve, je connais le son.
Ou dans une correspondance, mais non, je dirais rap moi pour le coup cette fois.
C'est Nekfeu.
Ok.
Ouais, ouais. Ok.
T'as dit que Nekfeu écrivait de manière bateau. Non, c'est Nekfeu. J'ai
moi,
pas le titre là.
Que Kerry James apparemment.
C'est Nekfeu. Mais elle est très
bien. Des fois, il y a des façons de qu'il a d'écrire qui sont un petit peu faciles, tu vois. Genre,
ouais,
de dire des choses entre guillemets banales, mais il la raconte bien. Quoi.
Complètement. Oui, et puis ça, genre vraiment une punchline d'un contexte. Donc. Attention. Si les hommes relient les livres relient aussi les hommes.
Ça, c'est rap pour moi.
Ouais, c'est rap aussi, ouais, je pense, à mon avis.
Ouais.
Ouais, ouais.
C'est le rappeur Édouard Philippe qui a écrit ça. C'est Édouard Philippe, ouais.
Parce que, en fait, je pensais à un truc par rapport à l'histoire que je disais tout à l'heure, la rêve de Booba, mais c'est dans un son connu.
Non, mais franchement, là, les trucs des politiques, vraiment, ça rentre dans un son.
Qui dit les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Et tu vois, c'est un truc un peu.
Quelle phrase.
Et ça, pareil, Édouard Philippe aurait pu le dire.
Ouais.
Donc, pour le... pour le coup. Vu qu'on forme des copies conformes qui ne pensent qu'à leur petit confort.
Ah, là, il y a un rime, tu vois, quand même.
Ouais.
Ça, c'est. Ça c'est Nekfeu. Ça c'est Nekfeu, je pense, à mon
vu
avis.
Vu qu'on forme des copies conformes qui ne pensent qu'à leur petit confort.
Ouais, pour moi c'est rap.
C'est Nekfeu. Ouais.
C'est complètement Nekfeu. Et c'est vrai que c'est très dur de la dire sans le forme des copies conformes. Mais ouais, c'est très.
Il a un gimmick sur la phrase.
Exactement.
Ouais.
Dans la nouvelle scène, je suis le seul qui sort du lot. Je suis le seul écrivain potable depuis Victor Hugo.
Stylé.
Stylé.
Je pense que c'est rappeur, mais elle est stylée en vrai la phrase.
Ouais, ça.
Je suis le seul écrivain potable.
C'est Orelsan. Il y avait un petit piège, il y avait une ref.
Ah, très bien.
Mais j'aurais trop aimé que ce soit un écrivain. Tu sais, qui vraiment.
Il clash. Il clash tous ses collègues et tout. Ok, le mec, le boulard.
Je continue à faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure.
Si c'est un politique qui dit ça sans.
Oui, j'avoue, c'est horrible.
Et nous aurons jusqu'au dernier quart d'heure. Oh.
Ouais.
Bon. T'as tous les journalistes dans la salle, ils sont en mode. C'est pas ouf l'intervention.
Et le silence après. Oui.
Tout le monde se regarde.
Bon.
Ah, je dirais rap, moi je pense, à mon avis.
Histoire ou rap?
Rap, pas histoire, je pense pas.
Ouais, ça me paraît bizarre un peu pour de l'histoire. Donc,
c'est Clémenceau qui a dit ça.
Ok, bah
what
putain,
qu'est-ce qu'il veut, petit Clémenceau?
Qu'est-ce qu'il veut, lui?
Dernier quart d'heure, je crois qu'il parlait d'un match de foot et tout.
Oui, mais en fait, je trouve la répétition et tout, je me dis, putain, mais en punchline, ça marcherait trop bien en rap. Mm-hmm.
Ah ouais.
Je trouve ça un peu facile, mais ça va.
C'est vrai. Bon chien reviennent toujours à leur maître.
Attends, ça me dit un truc. Je crois que c'est politique, ça. Je crois qu'il y a un piège sur celle-là. Ah, elle est pas facile. Moi, je crois que c'est un politique.
Genre dans un débat.
Je pense que c'est une phrase qui a fuité ou un truc comme ça.
Bons chiens reviennent toujours à leur maître.
Je pense que c'est un peu.
Ah oui, genre les 100 dents, un truc comme ça.
Ouais, ouais, des trucs comme ça, ouais.
Il y avait une phrase connue comme ça de Chirac avec. C'était quoi?
Avec Thatcher.
Il avait dit. Le débat où quand il était. J'y connais rien en politique, mais il était Premier ministre.
Je ne suis pas votre Premier ministre.
Ouais, c'est ça. Et Vert, il dit. En fait, il dit. En gros, il dit à Mitterrand oui, je pense que nous sommes deux candidats à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas président, je ne suis pas Premier ministre, donc nous sommes deux candidats.
Et il répond.
Et
oui.
Donc, t'as Mitterrand qui dit mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et là, t'es en mode aïe,
ouais, ouais. Très fort.
La politique, c'est vraiment du rap contender.
Ah, vraiment je pense qu'il peut y avoir un petit. C'est un mec qui vient du RC et tout, qui va écrire pour.
C'est incroyable. Incroyable.
Ouais, punchline.
Bon chien reviennent toujours
à leur
maître.
Je pense que c'est politique.
Ouais, je dirais aussi.
C'est Henri IV qui a dit ça.
Okay.
Ah ouais.
Ouais.
Putain, c'est marrant ça. Ok.
Pas un chic type, Henri
IV.
C'est pas lui qui est mort avec un linteau de porte. Non, c'est pas un Henri. Genre, j'avais regardé un truc sur les morts nuls et il y a un Henri qui poursuivait une femme à cheval.
Ok.
Et en fait, elle est rentrée dans une maison et il a pris le linteau de porte. Il est mort.
Oh, karma. C'est voilà. Karma de fou.
Ah ouais. C'est pas Henri IV, mais oui. Ça,
mais je sais que c'était incroyable. Un roi, alors je sais pas si c'est Henri quelque chose, mais ouais, il me semble que c'était.
Les gens te le diront dans le commentaire, mais oui, ça me dit un truc aussi. Ça me dit clairement.
Maintenant, j'ai envie vraiment d'aller regarder toutes les morts nulles. C'est incroyable. Quand on peut tout ce que l'on veut, il n'est pas aisé de ne vouloir que ce que l'on doit.
Tra, elle est pas facile non plus. Finesse, je vois bien ça en rap, mais je vois bien ça aussi sur un discours politique.
Ouais, moi aussi, je dirais plus histoire.
Ouais. Je vais dire rap, tu sais quoi, pour changer un peu.
C'est Louis XIV qui a dit ça.
Ah ouais.
J'ai envie de faire ce jeu toute ma vie. Et il est incroyable. Vraiment,
il t'en a plein, hein, des trucs comme ça.
Mais c'est fou. Je voyais les punchlines et tout. Je me disais, mais en fait, c'est fou. Tu sais, on croit vraiment que c'est réservé au rap. Et pas du tout. En fait, les punchliners, ils sont là depuis tellement longtemps.
Ah, c'est comme la phrase qu'est-ce qu'elle veut, la ménagère, mes couilles sur un plateau.
Ah.
Donc, ça, c'est punchline d'histoire, j'imagine, du coup. C'est un politique.
De qui? Et de qui à qui?
J'espère que c'est pas DSK, genre, ça c'est horrible,
non,
tu vois.
Non,
j'ai hésité à le dire, je me suis dit, attends.
Attends, redis là.
Qu'est-ce qu'elle veut, la ménagère? Mes couilles sur un plateau.
C'est un politique actuel?
Pas actuel, mais qu'on a bien connu.
Chirac?
Ouais, c'est Chirac.
Ah ouais.
Oh là là.
Ouais.
Et il me dit ça de Margaret Thatcher, qui est à ce moment-là Premier ministre d'Angleterre.
Et juste après, il fraude le métro, le mec.
J'avoue. Ah, il aime sa clope et tout dans son jet.
Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment.
Incroyable.
Ouais,
ah ouais. Et d'ailleurs, il y a un vrai truc. Voilà, ça, discussion de comptoir. Mais je trouve que c'est hallucinant parce que souvent, les politiques, genre Chirac, en fait, il n'était pas tant apprécié que ça quand il était président.
Et oui, je suis d'accord.
Il est devenu overstylé après.
Oui, il est presque rentré dans la pop culture. C'est genre, il y a un truc.
Et j'ai l'impression que Hollande, il a presque un truc comme ça maintenant, où quand il passe sur les plateaux, c'est en mode, ouais, il dit trop la vérité. Et tout le monde a oublié qu'en fait, tout le monde le détestait, se foutait de sa gueule quand il était président.
Non, c'était dur. Après, Chirac, il a un truc, tu sais, il y a eu les guignols. Il y a eu aussi, c'était le président quand on a été champion du monde en 98 aussi, tu vois. Et en vrai, il connaissait rien au foot, mais il a compris ce que le foot pouvait lui amener aussi, tu vois, pour le coup. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle La République du foot qui est sorti il y a pas longtemps là, et qui revient justement sur les relations entre le football et et le politique, et notamment le rapport entre Aimé Jacquet et Chirac. Et en gros, Chirac, je crois qu'il est avec François Lamour, qui est son ministre des sports à ce moment-là. Et il dit Chirac, tu sais, il sort d'un entraînement de l'équipe de France et tout, et du coup Chirac lui dit à son ministre, il dit franchement, je les aime bien, j'aime bien cette équipe et tout. Et Lamour, il dit ouais, mais ça va être compliqué de gagner quand même, hein. Et parce qu'avant 98, on est pas ouf, quoi. Et t'as Chirac qui fait non, mais moi je les aime vraiment bien. Et en fait, il a créé un lien avec eux qui fait que même si quand tout le monde dit Chris Zidane dans le Stade de France, lui il sait même pas qui c'est, tu vois. Mais il a ce truc de
oui, parce qu'il y a ce fameux extrait de Chirac qui est filmé dans les gradins.
Exactement,
avec l'annonce de tous les joueurs, et lui il fait du playback, il va et en fait pas du tout, il en a aucun.
Exactement.
On s'en fait encore 2-3.
Allez,
je suis chaud,
Vas-y, go.
J'ai un avis à vous donner. Toutes les fois que vous voudrez parler, taisez-vous.
Ok, c'est déjà super violent en fait.
Oui,
comme.
C'est vrai.
Écoutez-moi.
Je pense que c'est histoire.
Moi, ouais, je pense aussi.
Je pense que c'est histoire.
Je pense pas l'avoir entendu, je sais pas.
Moi, je vois bien histoire, ouais.
Histoire ?
Ouais.
C'est Vicomte de Turenne, 1673. En effet, bien vu. Okay. Mais ça pourrait très bien marcher sur un.
Il avait un gros melon, hein, le frérot.
Oui, c'est. Dans l'histoire, bizarrement, il y a des gens avec des gros melons. Hein. Ouais. C'est. Celle-là, elle est plus longue. Il n'est pas bon de nous regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est là une forme subtile de violence.
Ah, je vois bien l'abbé Pierre, tiens, un truc comme ça.
Ouais, histoire. Histoire, je pense.
Je vois pas. J'ai l'impression c'est piquant, le, c'est chaud,
le,
je pense.
J'ai l'impression c'est le verset dans Pulp Fiction avant qu'il tue.
Ah ouais, oui.
Ah ouais, ouais. Mais je le vois mal kicker ce truc-là, tu vois. Enfin, je sais pas expert rap, mais je pense que c'est histoire.
Mais en fait, là, vu comment c'est long et construit, je l'imagine plus en raconté
que. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que c'est histoire.
Eh bien, en effet, c'est le pape François en 2019 qui a dit ça.
Ok. Un départ dans la Bépire.
J'en ai un dernier. Vous êtes de la merde dans un bas de soie.
Ah, il est chaud parce que merde, le bas j'aurais de soie, dit ah ouais, c'est chaud.
Parce qu'il y a merde et il y a bas de soie.
Ouais, ouais.
Donc c'est
bas non, de soie.
Vous êtes de la merde dans un bas de soie.
J'ai peur qu'il lâche un bas de soie.
Et complexe, hein. Franchement, des fois il y a des punchlines de rap où je suis en mode
waouh. Non, pour moi c'est histoire.
Ouais, je pense histoire aussi, ouais, à mon avis.
C'est Napoléon. Voilà. Donc okay. En effet, ouais. Mais
merde dans un bas de soie.
Mais j'étais choqué que Napoléon
disait merde à l'époque.
Bah ouais,
incroyable, incroyable.
Exact. Exact.
Incroyable.
Ok.
J'ai adoré ce jeu.
Il est cool, hein.
Comme quoi, c'est...
Et tu pourras en refaire parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Fou,
hein, pour le coup.
Mais il faudra vous réinviter parce qu'il faut des experts à chaque fois pour le faire.
Mais c'est trop dur. En vrai, toi, t'as le truc horrible parce que tu sais, quand tu le kicks pas.
Bah ouais, c'est ça.
Tu le disais très bien, attention.
Hein. Ah bah merci. Bah,
mais c'est pas facile.
Non, mais après, c'était moi aussi d'amener le piège.
Bien sûr.
Il fallait que ce soit dit de manière neutre. Évidemment, évidemment. Les amis, je reprends une question de tartine de vie. Avez-vous déjà accepté un projet ou une mission sans savoir le faire?
Je l'ai pas accepté, je l'ai proposé sans savoir le faire.
c'est très bien, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. C'était quoi?
En fait, c'est moi j'ai commencé YouTube parce que je faisais de la radio, j'écrivais mes petites chroniques, mais je voulais avoir le retour direct des gens parce que radio étudiante, on n'a pas les retours directs. Donc je me suis dit, je vais faire ce format voix off sur YouTube.
Ok.
De là, j'ai eu envie de faire de la vidéo et je me suis dit, j'ai pas envie de me montrer parce que j'avais aussi un petit souci avec ça, tu vois, genre montrer ou me filmer, je trouvais ça, tu sais, déjà j'arrivais pas à me voir en photo, tu vois, donc je me suis dit me filmer, mais frérot, non, c'est mort. Et du coup je me suis dit, mais j'ai trop envie d'apprendre et j'ai trop envie d'apporter quelque chose à cette culture qui me suit depuis que je suis tout petit, en plus des petites chroniques que je m'amusais à faire, et je me suis dit, bah je vais réaliser des clips, et je n'y connaissais rien.
Mec, t'es chaud.
Et je me suis dit, attends, je vais faire une série sur ma chaîne YouTube où j'avais déjà de l'audience, où je vais dire je suis réalisateur alors que
allez.
Rien. Ouais. Et je me suis dit, je vais contacter des rappeurs que je kiffe et je vais leur proposer un clip gratuit.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait une série comme ça où je faisais des clips gratuitement. Et au final, je me suis dit, mais en fait, non, ça, j'y arrive bien.
Et le premier, c'était comment?
Le premier, en fait, bon, j'avoue, j'ai un pote à moi qui filmait et du coup, lui faisait de la réal. Okay. Et en fait, j'ai un peu appris avec lui. Et le deuxième, après, je me suis occupé de tout le montage. Et après, j'ai commencé à filmer.
Ok, ouais, quand même.
Mais quand même, tu vois, il y avait ce truc de. Parce que je me vendais comme un mec qui avait déjà réalisé.
T'es arrivé serein.
Du coup, t'allais voir les mecs, tu les regardes dans les yeux en mode, bien sûr, on va faire ça comme ça. Ah, mais t'es chaud, hein, parce qu'en vrai.
Alors là, au niveau valeur de plan, je pense que. Et au final, c'était fin 2017, début 2018 que j'ai commencé à faire ça.
Trop bien.
Et petit à petit, après, j'ai eu pas mal de.
Et après, on a commencé à t'appeler.
C'est
pour
ça.
Réaliser.
Ah, oh, ça fait plaisir. Hein. Ouais. T'imagines, t'as pas en mode, tu peux venir clipper.
Ouais,
et tout.
C'est cool. Ouais. C'est petit cool. à petit, ouais, beaucoup de rappeurs. Et après, j'ai bossé beaucoup avec des youtubeurs sur de la réal. Car beaucoup de youtubeurs se sont mis à faire de la musique.
Ouais.
Et voilà. Non, franchement, trop.
Trop bien.
Donc,
mais c'est fou parce
le
que. Le culot
qui a fait que ça m'a déclenché un truc derrière. Quoi.
Parce que si t'avais attendu de savoir faire, t'aurais pas eu forcément les opportunités. Et du coup, en fait, peut-être tu serais pas réal aujourd'hui.
Et genre, c'est quoi, genre ta masterpiece? Genre en mode, ça, c'est celui où j'ai le plus.
En termes de clip?
Ouais.
C'est pas forcément au niveau visuel ou niveau idée, c'est plus que ça a apporté pour la personne. C'est Mastu qui avait fait un son, Déprime.
Ah ouais, c'est toi qui l'avais fait?
Ouais,
incroyable.
Et en fait, c'était un moment où c'était un peu moins bien pour lui, etc. Et ce son était important pour lui. Et du coup, ça m'a fait plaisir qu'il fasse appel à moi pour réaliser le clip. Et on a travaillé ça ensemble et j'en garde un très bon souvenir. Tu vois, c'était plus qu'un clip pour moi, c'était genre un vrai truc.
Et le son était ouf parce que je trouve qu'il retraçait plein de questionnements que nous on a en tant que créateurs, tu vois, sur Internet. Alors évidemment, c'est des trucs qui nous sont très propres, donc peut-être que les gens peuvent pas comprendre et
au final, il disait des
trucs. Mais je trouve qu'il disait des trucs et même moi, ça me touchait parce que des fois, t'as des moments où t'es moins bien et tout, tu vois. Et c'est difficile d'aller se plaindre de ce que tu fais des fois parce que on a un boulot.
Clairement,
tu vois, vraiment, on est chanceux.
On a de la chance et pour beaucoup de gens, on est. Enfin, on est chanceux de fou, tu vois.
Mais
ce n'est pas que de la chance, attention.
Ouais, bien sûr,
ouais.
Mais trop cool. Ah ouais, ok, c'est toi qui l'as fait, trop bien.
Du coup, c'est plus pour le souvenir, en fait, plutôt que, que le,
le
produit en tant que tel, même si le clip est très cool, tu vois.
Il est hyper propre, c'est fou. Mais moi, je suis grave dans ce truc-là. Alors, je suis très mauvais en anglais, donc personne me juge, s'il vous plaît. C'est le fake it until you make it, tu vois. C'est genre vraiment fait semblant de savoir faire jusqu'à ce que tu saches le faire. Et moi, c'est le résumé de ma life. Genre à chaque fois qu'on m'a proposé un challenge, et c'est Juliette Léniel qui en parlait très bien dans le Tartine de vie avec Clément Viktorovitch et Baptiste Le Caplin, où elle disait moi le bon moment, tu vois, pour se lancer dans un projet, etc. C'est genre, est-ce que ça me fait peur? Et si ça me fait peur, que je ne sais pas exactement le faire, vas-y go, c'est comme ça que je vais apprendre, et c'est en le faisant, quoi. Et j'avoue que, mais tout, hein, les premiers entre mecs, première fois que j'arrive dans un studio, enfin, j'ai tout appris et rien n'est parfait.
C'est comme ça que tu te formes le
mieux. Exactement. Et entre mecs, par exemple, si j'avais attendu que ce soit parfait de savoir le faire, j'aurais attendu 6 mois, ah, un an. Mais en fait, c'est grâce aux premiers qui ont fait 500 000, 1 million de vues, que en fait, j'ai réussi à choper un peu de thunes pour avoir un studio, et que j'ai appris de mes erreurs sur la première session, etc., etc., quoi, et que t'arrives comme ça à le
faire.
C'est
trop cool.
J'ai l'impression que c'est un accélérateur un peu.
Ouais.
Mais par contre, oui, c'est
hyper important, en fait, de se lancer. Enfin, moi, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose et tout, mais c'est vrai que t'as ce truc où tout le temps tu te dis, tes potes te connaissent en tant que ta personne, tu vois, pas en tant que quelqu'un qui crée pour du public et tout. Du coup, t'as toujours ce truc de, ouais, je vais me faire juger, même mes potes, ils vont me faire et tout, tu vois, ils vont se foutre de ma gueule. Et en fait, moi, je faisais des vidéos YouTube, j'avais 11 ans, tu vois. Donc, genre, je le cachais à mes parents, je le cachais à mes potes. Et j'ai toujours eu ce truc de, vas-y, c'est un truc, faut que je garde pour moi, tu vois, c'est mon petit, tu vois. Genre, je peux pas le montrer, en fait.
Sauf qu'à un moment donné, tu peux plus trop le cacher. Quoi.
Ouais, bah,
quand ça
c'est
commence à fonctionner, c'est...
Mais du coup, c'est pour ça que j'ai longtemps gardé la voix off et que je me suis pas montré, parce que je pense que j'avais ce truc de l'enfance où, tu vois, genre, moi, je me souviens, c'était au collège ou au lycée. Lycée, je crois, seconde. T'avais un mec, il avait mis une de mes vidéos pendant son exposé, tu vois, pour m'afficher. Du coup, t'es là.
Oh là, là.
Tu vois,
ah ouais.
Et du coup, tu te dis, en fait, et du coup, tu gardes en tête de ce truc de, c'est un peu un truc de geek, tu vois, où genre, tu sais, j'étais en mode, non, enfin, faut que je le garde pour moi, tu vois, genre, les gens, ils vont se foutre de moi, moi, je kiffe, mais c'est mon petit kiff perso, tu vois.
Et... Mais tu vois, j'ai l'impression que là, dis-moi si je me trompe, mais que t'as fait il y a pas longtemps ta vidéo la plus personnelle, où tu parles de tes troubles anxieux.
Ouais.
Et c'est un truc que genre t'as hésité longtemps avant de faire.
J'ai hésité longtemps quand même. J'ai surtout voulu ne plus trop être là-dedans.
Ok.
Pour pouvoir le faire, tu vois. Je voulais pas. Enfin, j'avais peur de la vision que j'aurais pu. Enfin, comment j'aurais pu le raconter si j'étais encore vraiment à fond touché par la maladie tout le temps, tu vois. Même si c'est par période et tout. Mais j'ai longtemps hésité. Mais
et pour le coup, t'as regretté après ou...
Non, du tout. Du tout, c'est une vidéo. Certes, ça a fait peut-être un peu moins de vues, mais ça a tellement. Enfin, j'ai jamais eu autant de commentaires et surtout de DM. Ouais. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, mais de gens qui vivent des choses similaires au quotidien, que ce soit des crises d'angoisse ou des trucs plus profonds comme ce que je peux avoir, où ça t'emmène parfois psychiatrie, des choses comme ça, tu vois.
Carrément.
Mais en vrai, non, c'est hyper important de passer le cap.
De fou.
Et ouais, je suis trop content d'avoir parlé de ça.
Le lien dans la description, évidemment, n'hésitez pas à cliquer.
Mais c'est malheureusement un truc qui touche beaucoup de créateurs, de gens qui sont dans le domaine un peu artistique. Parce que tout le temps en remise en question.
Ouais, c'est clair.
Et
puis il n'y a que toi.
Ouais.
Enfin, tu vois.
Ouais, t'es souvent seul.
En fait, même si t'es beaucoup entouré, que tu fais des rencontres, etc., t'es quand même souvent
dans
le fond.
Il y a un cheminement en toi aussi, tu vois, sur ce que tu crois capable de faire, ce que tu peux pas faire et tout, tu vois, c'est sa capacité à se dire ok, je peux le faire, et même si t'as des gens qui te disent mais mec tu vas le faire et tout, t'inquiète, et toi tu vois tout ce qui te reste à accomplir pour arriver au résultat et tu te dis c'est peut-être pas si simple que tous les gens autour de moi le disent, clairement. Quoi, tu vois,
et après, est-ce qu'il y a pas la force du collectif? Je pense par exemple toi t'es dans le Lot avec Joyka, Mastu, Théodore. Est-ce que c'est pas aussi cool de là où moi je me suis rendu compte depuis que j'ai mes propres studios, alors j'ai des invités à chaque fois et je rencontre plein de gens, c'est trop cool. Toi tu dois peut-être à ce truc là, alors tu fais des feats aussi, mais j'ai l'impression qu'on est plus isolés nous par exemple, alors toi à tout moment t'as quelqu'un à l'étage où tu peux discuter, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais après aussi j'ai mes potes de tous les jours, tu vois, qui sont eux vachement dans la création.
Donc, en gros
je suis toujours bercé dans un truc créatif, tu vois. J'ai des potes qui sont danseurs, qui font du break, j'en ai un autre qui est dans la créa de sap, tu vois, par exemple il m'a fait ce pull là, il fait plein de trucs. J'ai un autre pote,
tu vois, c'est pas un vrai Nike.
Non, c'est pas un vrai Nike, enfin c'est un vrai Nike
mais
coupé.
C'est pas une vraie collection.
Il fait plein de... enfin mes potes proches sont tous dans la création, donc ça me pousse toujours à me dire essaye des trucs même nouveaux, etc., tu vois. Donc et oui, le local fait aussi
Au
quotidien, c'est trop bien, tu vois, t'es au quotidien avec plein de gens créatifs. Je sors du local pour aller voir mes potes et ils sont aussi dans ce monde là tu vois, donc je suis en permanence bercé dans un truc où j'ai tout le temps envie de créer.
Est-ce que t'as pas le problème inverse du coup, de jamais pouvoir déconnecter du coup? T'es toujours stimulé créativement.
En fait je me dis pas que faut que je déconnecte.
C'est
mon quotidien, donc je me dis
go.
Ouais, mais c'est bien de prendre des vacances des fois.
De fou. Riff, t'as déjà fait un projet où tu t'es dit putain, mais je sais pas le faire en fait.
Bah, je sais pas le faire, je sais pas si j'ai eu ça, mais parce qu'en fait, quand je faisais des trucs, je me disais je peux apporter quelque chose de plus, tu vois. Enfin, j'ai une vision sur un projet où je me dis je peux apporter un truc, mais oui, enfin, tu vois, on m'a déjà proposé de faire des interviews en anglais. Je parle pas très bien en anglais, okay. Quoi, tu vois, dans le milieu du sport. Bah ouais, mais
ça m'angoisse.
Tu le prépares et tout, du coup, j'ai déjà fait ça. On m'a dit, mais du coup, il y aura des joueurs, c'était au tirage au sort de la Coupe du Monde, on m'a dit, il y aura des joueurs australiens, il y aura un écossais, faudra que tu leur poses des questions et tout.
Des accents.
Mais en plus, ce qui est triste, c'est que ça te ferme des portes, en fait, tu vois.
Mais,
parce que moi, on m'avait proposé un truc avec un rappeur UK connu, tu vois.
Okay.
Genre aller en studio, faire un truc. Et j'étais en mode, non, mais, il a l'accent en plus UK, je vais rien comprendre, tu vois. Et du coup, j'ai dit non, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vois, j'aurais pu faire.
Alors qu'il y a plein de techniques, tu peux avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui traduit. Qui...
Ouais, mais tu vois, j'ai envie que. Enfin, je sais pas, genre, j'ai envie que ça soit un échange fluide et qu'on kiffe tout autant, tu vois, pas que lui, il soit là en mode à attendre que. Tu vois, enfin,
est-ce que c'est un très gros rappeur ?
Quand même, ouais.
Ok. Tu peux pas faire un challenge de j'apprends l'anglais pendant 6 mois avec l'objectif de... et comme ça les gens suivent le truc. Et après il y a un petit jeu avec le rappeur où t'es en mode bon, j'ai appris l'anglais exprès pour toi.
C'est vrai, mais je suis tellement nul en langue, c'est scandaleux.
Ouais, ça me donne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais après, moi,
toi, tu l'as fait du coup.
Moi je l'ai fait. Mais après, moi je sais que j'ai.
Bah, respect.
Moi j'arrive à passer ce step.
Toi tu l'as fait.
Mais moi je passe ce step de la honte en mode on se comprendra quoi qu'il, tu vois, pour le coup. Genre quand je vais en vacances, de temps en temps, ça me dérange pas de parler avec quelqu'un en anglais. Même si je suis pas très bon en anglais, on se débrouillera et j'arrive à avoir des conversations quand même, tu vois, alors que bon, je fais un milliard de fautes et tout, mais après, tu vois, des projets vraiment où je me sentais pas prêt, j'ai pas de souvenirs, tu vois, des fois où je me dis, j'ai pas toutes les compétences requises, certes, tu vois, quand je fais des émissions de sport, je me dis, est-ce que je suis légitime, je n'ai jamais fait, mais je kiffe le sport.
T'as jamais fait de sport?
Si, j'en ai fait. Mais après, en regarder, être capable d'en parler, faire des débats, tu vois. Du coup, ce qui fait que, bon, t'es en mode, est-ce que je suis légitime à le faire? C'est plus une question de légitimité que de te sentir
en fait,
toi,
capable.
Mais
c'est toujours ça. Regarde-moi, je parle de rap. Qui est légitime à parler de rap? Tout le monde écoute du rap, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Moi, ce que j'ai toujours dit, je suis pas. Enfin, après, tu m'as présenté comme un expert. C'est pas une balle que je
tire.
Il est expert, mon pote.
Mais genre, moi, je me considère pas tel quel, tu vois. Je suis juste un mec. Mais. Mes potes avec qui je traîne au quotidien, ils ont la même culture rap que moi, tu vois, donc ils pourraient très bien parler.
Bien sûr.
Tu vois, c'est juste que je me suis lancé à un moment, j'ai eu des idées qui font que nanana, tac. Et...
Après, les gens qui se disent experts, souvent, tu vois, ça fait un peu peur. Quoi.
Ouais, voilà.
Souvent, les meilleurs experts se disent pas experts. Mais...
Je suis juste un expert de rap, en fait. Donc,
en fait, c'est ça.
Je suis un collab, en fait. Donc... ok.
Désolé.
Mais non, pour le coup, j'avoue que j'ai pas d'anecdote croustillante en mode pour aller le projet.
Non, mais déjà, le truc en anglais, moi, ça m'a angoissé, donc carrément.
Mais moi, ma vie, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps. Allez, on y va.
Nickel. Ouais, mais trop bien en vrai. Ouais.
Parce qu'en décembre, peut-être, c'est là que tu m'as connu, je crois, en plus. J'avais sorti un projet musical.
Oui, bien sûr.
Du coup, je faisais des clips. Je me suis dit, tiens, là, j'ai envie de faire un projet musical où je rassemble tous les artistes avec qui j'ai fait des clips et qui sont en plus devenus des potes suite à ça. Mmh. On a fait un projet commun et je me suis dit, c'est cool, mais vas-y, je vais faire du merch aussi. J'y connais rien. J'ai tout fait tout seul, mes stocks. J'ai créé ma propre marque de bonbons. Je me suis dit, c'est stylé, tu vois. Il y a un côté. J'ai fait toute une DA en 3D et tout avec les personnages. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu bonbon, tu vois.
C'est
donc
la première vidéo que j'ai vue. Et vraiment, je me suis dit, mais ce gars est fou. Vraiment, et en fait, tu présentais le truc. Et en fait, c'est des box. Et t'avais la box avec les mixtapes. T'avais enregistré aussi.
Ouais, non, moi, je faisais juste l'intro avec une. Enfin, juste en mode voix off un peu.
Ouais, bon, ok. Donc, t'avais bossé les différentes mixtapes avec. Il y avait des goodies dedans et tout.
Ouais, chaud.
Ouais, et de là, je me suis dit. Ok, c'est cool, j'ai fait du merch et tout, mais je me dis, mais j'ai encore plus envie de, tu vois, donc je me dis, je vais faire un concert, allez. Et en fait, sauf que j'ai géré le merch, les envois, le concert, je faisais tout seul, c'est-à-dire que j'arrive sur scène, même sur le concert, j'arrive sur scène, je parle aux gens, j'accueille le public, j'ai jamais parlé devant un public, il y a 300 personnes, je suis vous êtes chaud, c'est ça et tout. Et là, je vois qu'il y a un problème de son dans l'enceinte et je suis là, tac, et tu sais, je dis au mec, regarde, tu vois, parce qu'en fait, du coup, je gérais tout, tu vois, même les ondes, enfin, genre,
les gens, c'est leur travail, tu peux leur demander.
Mais c'est ça.
Et tout,
mais je sais pas, tu vois, j'ai ce truc de j'ai envie d'apprendre tout seul, donc je le fais, tu vois.
Et au moins,
j'ai beaucoup de mal à déléguer.
Ah, c'est dur.
Heureusement, mes potes me disent non, on est obligé de le faire, sinon tu vas
mourir. Mais là, c'est toi qui montes tes vidéos.
Je monte encore une partie de mes vidéos.
Ok, parce que ce qu'il faut dire,
mais sinon,
que...
je fais tout l'habillage quand c'est pas moi qui fais le montage.
Parce que à la base, t'étais monteur à la Redbox,
c'est ça, au tout début en
2018. Et quand t'es monteur et que tu bosses avec un monteur, comment ça se passe?
C'est très chiant. Ouais. Je suis. C'est des bonnes pages, deux bonnes pages Word de modif.
Ouais. Et la sensation que tu sais mieux faire et tout, je pense que c'est compliqué.
Ouais, en fait, tu te dis que. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça parce que tu te dis la modif que tu fais là, le mec dit que ça lui prend une heure. Et moi, en 5 minutes, j'ai l'impression que je peux le faire. Donc, je suis en mode. Ah, frustrant, ouais. Est-ce qu'il se fout de ma gueule ou, tu vois, genre, du coup, des fois, tu rentres un peu dans des parano parce que je connais totalement le métier, tu vois. Et puis, aussi, j'ai été dans un rythme. C'est un peu le piège aussi, c'est que j'ai été dans un rythme effréné quand j'étais à la Redbox.
Ouais.
C'est pour ça que j'en suis parti, parce que c'était vraiment.
C'était beaucoup.
C'était, ouais. Je faisais quasi deux montages YouTube par semaine.
Ouais, ce qui est un bon rythme.
Plus parfois un cadrage.
Ouais.
Donc, tu vois, et puis c'était des grosses vidéos avec des 2h, 2h30 de rush.
Puis aujourd'hui,
donc,
les montages, ils sont tellement. Ils sont tellement. En fait, en gros, il y a tellement de détails et des détails que tu vois pas à l'œil nu, mais quand t'es monteur, je pense que t'es en mode vas-y, il faut que ça fasse ce petit effet là et tout.
Clairement. Et puis, en plus, à chaque fois, on me disait mais t'es trop fort, t'as trop ta patte. Du coup, j'étais en mode il faut que je mette ma patte à chaque fois.
À la pression.
Et du coup, j'étais en mode ouh, ok. Mais d'un côté, ça m'a donné une certaine rigueur de travail.
Ouais.
Et ça m'a permis. De monter rapidement, même pour mes vidéos, d'être hyper efficace. Donc en vrai, c'est trop bien.
Et t'aimes ça encore monter du coup? Parce que beaucoup de gens disent que c'est la partie la plus relou. Hein.
En fait, j'aime ça quand c'est moi, enfin, quand c'est mes vidéos, tu vois, il n'y a pas de souci. Enfin, genre, je sais pas, j'ai kiffé le moment. Ça me fait presque gaulerie de revoir le moment, tu vois. Donc en vrai, non, ça me dérange pas.
Okay.
Après, il y a des vidéos où je vois, il y a 4 cams, 3 micros, je suis en mode ah, ça serait bien quand même qu'il y ait un des rushs déjà fait.
Ouais, tu m'étonnes. De fou. Les amis, il y a une question qui est très intéressante et j'ai envie qu'on soit dans l'honnêteté.
Bien sûr.
Allez.
Quelle est votre dernière déception?
Waouh, déception.
Ça va être très triste. Ce que je vais dire.
Okay. Ouais.
Mais je sais pas si, en gros.
J'en ai une moins triste, donc j'enchaîne derrière. Vas-y, commence comme ça. Après, je rattrape.
J'ai perdu mon grand-père.
Ok.
J'étais pas très proche avec lui, mais quand même, tu vois.
Ouais.
Et en fait, j'étais dans le rush du travail, donc. Le fait de ne pas déconnecter.
Ouais.
Et il m'envoyait, ça faisait 2-3 mois qu'il m'avait envoyé des messages et je ne répondais pas.
Ouais.
Et il est décédé.
Ah ouais,
et du coup, je suis là. Ah.
Mais mec, je pense que ça va parler à tellement de gens cette
anecdote. Et je me dis, mais je suis une merde, tu vois.
Ouais.
Et tout mon entourage me dit, mais non, mais t'as fait des choses que tu considérais, que tu t'es dit, tu peux lui répondre plus tard, etc. Mais je me suis dit, mais en vrai, non, je pense que j'aurais pu me poser 3 minutes et lui envoyer un message, tu vois.
Ouais.
Juste, et du coup, ça m'a trop blessé, tu vois. Et du coup, envoyer des messages, c'est important, prenez le temps. Parce que vraiment, c'est une grosse déception, je me dis, putain, c'est trop dommage, tu vois.
Bah là, je vous parlais de mes grands-parents, pieds noirs, garde d'Algérie et tout. Et vraiment, ce matin, ma mère m'a envoyé un message, ma grand-mère à Parkinson,
okay.
Et m'a vraiment envoyé ce matin un message de je pense qu'il faudrait que tu retournes en Normandie rapidement parce que ta grand-mère va pas très bien, tu vois. Et ça, je me suis dit, putain,
mais...
en fait, je me dis qu'est-ce que je garde comme marque après,
c'est
et même pour descendance, tu vois, mes potentiels enfants qui connaîtront pas leurs arrière-grands-parents, etc., qui est trop important, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, putain, il faut laisser une marque qui raconte leur histoire.
Ouais,
et même moi, que je me sente pas mal de me dire, putain,
mais après, tu vois, plein de petites choses où je me dis, non, mais je pourrais quand même laisser quelque chose, tu vois, même si on n'était pas proches. Quand j'étais petit, il m'achetait des BD de Tintin, tu vois.
Okay.
Et à chaque fois, il faisait un petit mot dedans. Quand il
trop bien.
Du coup, j'ai toute la collection avec à chaque fois une phrase de lui, etc. Okay. Donc je trouve ça beau, tu vois,
de
transmettre ça à mes enfants, même si je ne lui ai jamais dit que je n'aimais pas Tintin.
Mais bon, ça au moins, ça vient fait comme ça au moins, regarde.
Ouais, c'est un
petit souvenir, quoi.
Mais ouais, non, trop
bien. Déception, mais c'est tellement universel cette déception.
Ouais,
et j'arrive même pas à savoir si quand il y a un décès. T'as pas un mini truc de culpabilité à chaque fois de te dire ah j'aurais pu.
Oui, mais
toi,
je pense que
le j'aurais pu, il est toujours là.
En fait, c'est ce que je me dis, c'est que peu importe. Si j'avais répondu, je me serais peut-être dit autre chose ou machin.
Ouais.
Genre, je me serais dit, je suis pas allé voir sa nouvelle maison, je serais pas machin. Je pense que t'as toujours une forme de déception un peu.
Ouais.
Tu te dis que t'aurais pu faire quelque chose.
De fou. Toujours.
C'est clair. Oh, c'est dur comme question, tu vois, pour le coup. J'avoue, est-ce que j'ai une déception, une dernière déception
On en a tous tout le temps.
Ben ouais,
c'est un truc heureux, hein, parce que là.
Ouais, mais c'est ça, parce que moi j'avais un truc un peu similaire aussi, tu vois, avec moi c'est pas mon grand-père, mais c'est ses frères, tu vois, pareil, qui sont partis, et où tu te dis putain. En fait, c'est plus le fait de se dire que t'as toute une génération qui part, quoi, tu vois. Moi, mon grand-père était parti avant. Là, ça, ses frères qui partent là les dernières semaines, tu vois. Tu te dis putain.
Ouais.
Du coup, il y a plus ce truc-là. Il y a plus ce truc-là, effectivement. Non.
C'est très vrai ce que tu dis dans la hiérarchisation, c'est de se dire.
Ça fait bizarre.
En génération, tu dis ah ça y est, tu sais, moi je le vois comme un truc de palier qui monte. Très jeu vidéo en fait, mais tu sais, de se dire maintenant, ça veut dire que la génération de mes parents et leurs frères et sœurs cousins. C'est eux qui sont la génération la plus vieille de la famille,
c'est
tu vois.
Ouais, c'est
donc toi, du coup, en fait, ça te rappelle que le temps passe, en fait, tu
c'est
vois. Ça te rappelle que toi, ça y est, tu vois, moi, je vais avoir 30 piges, je me dis putain, ok, donc.
Moi, 25 ans dans un mois, je suis.
Tu vois, c'est un petit quart de siècle.
Merde.
Et tu sais, de se dire, bon, bah, ok, ça veut dire que là, pour avoir une autre lignée, c'est nos enfants, tu vois.
C'est ça. Là,
et ça y est, les plus vieux, c'est nos
pression.
Parents, enfin, trop bizarre.
Ça y est, c'est la pression. Ouais. C'est la pression. Non, il y avait ça, après, des déceptions, je sais pas, il y en a un petit peu tout le temps. Moi, moi parfois tu vois je me déçois sur des trucs notamment en gros je m'étais un peu fixé tu vois le fait de d'améliorer mon orga puisque tu sais on arrive à, bah, justement sur le fait de déléguer quoi tu vois et genre je suis catastrophique tu vois le fait de
moi bon, j'avoue que là il y a beaucoup de déceptions aussi
en fait c'est pas des déceptions tout le temps mais c'est des déceptions un peu quotidiennes en mode putain j'ai pas dit putain j'aurais dû envoyer un truc
moi c'est plus les trucs tu vois tout ce qui est URSAF les trucs comme ça je me dis ah je dois autant ouais, j'aurais compté je peux la prochaine fois je vais bien compter à chaque fois, et puis après j'oublie et je me dis ah encore
ouais tu vois c'est plus des déceptions comme ça de se dire parce que comme on est on a la chance d'être nos propres patrons. Du coup, c'est à toi de te trouver la capacité de te régler, de trouver des trucs. Et donc, c'est le fait de, des fois, sur ce plan-là, de pas progresser, tu vois. Et attends, tu te dis, mais vas-y, mais...
Mais t'as l'impression de pas progresser ou tu es encore très dur avec toi et tu progresses pas assez vite comme tu le voudrais.
Je progresse pas assez. Après, on met des trucs en place, etc., tu vois. Mais vraiment, des fois, t'es en mode... En fait, il y a tellement de sollicitations de partout que des fois, t'es en mode, ok, je suis calé sur ça. Mais en fait, en gros, t'as un truc dans ton angle mort, un projet, un message que t'as pas envoyé, t'es en mode, ah, c'est relou, tu vois. Et non, la déception, c'est que... Bah, des fois, t'as des... Là, ces derniers mois, il y avait des collaborations avec des agents et tout. T'es en mode, bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais et tout, machin. Mais après, c'est rien de méchant aussi quoi tu vois donc voilà
et puis ce qui est compliqué c'est à un moment moi je suis à fond là-dedans en ce moment c'est genre reprendre les vidéos donc là ça faisait bon là maintenant ça a repris ça donc depuis 4 semaines il y a des vidéos mais c'était garder le rythme
c'est j'ai l'impression que c'est un peu le piège de beaucoup de créateurs c'est qu'en plus on est dans ce truc de ah l'algorithme il nous met un peu une petite épée démoclée
c'est vraiment un truc de youtubeur quoi l'algo c'est
vous verrez vous aussi à la maturité de
mais
Twitch
mais bien un jour tu vois mais c'est vrai que c'est horrible parce que t'es en mode je ne suis responsable peut-être pas de la réussite ou non de mon travail
mais du coup t'as un peu ce truc de déception de toujours te dire vas-y je vais essayer de me dire une fois toutes les semaines machin mais en vrai surtout quand t'arrives pas à déléguer comme moi c'est compliqué c'est très compliqué
c'est clair
donc, c'est un rythme, c'est bien beau de faire 70 heures 80 heures semaine mais des fois faire un peu de pause
c'est pas tenable
tu n'arriveras pas c'est clair donc voilà donc c'est ça un peu la déception j'embrasse Lou évidemment mon pote qui bosse avec moi et qui essuie les plâtres à chaque fois il m'a dit tiens c'est marrant je t'avais envoyé un message tu m'as pas répondu c'est clair et du coup c'est un peu frustrant parce que évidemment on est exigeant avec nous-mêmes et du coup bah t'es en mode punaise ce serait cool de faciliter la vie un peu aux gens donc en fait à chaque fois si t'avais envoyé un message une semaine avant bah t'aurais mis personne dans la sauce tu vois sauf que là t'es directement responsable de la mise dans la sauce de une voire plusieurs personnes de temps en temps quoi.
Ce qui est compliqué c'est moi je suis pile dans la période où je gère ce truc court terme donc ça veut dire que toutes les semaines il y a un truc et qu'en même temps je commence à faire enfin des projets bon il y a eu le livre mais là je commence à faire d'autres projets moyen long terme tu vois des trucs de rentrée il y a des trucs à la rentrée qui arrivent si fort ah là là et donc en fait c'est tout ce truc là de comment t'arrives à juste pas faire qui est l'histoire de ma scolarité c'est-à-dire faire la veille pour le lendemain constamment tu vois
on est ensemble
tu vois voilà
et je faisais même le jour même hein, donc
oui bon des fois le jour même des
dans
fois
le bus,
après
je vais enchaîner tout
c'est ça et en même temps j'irai sur le mais je comprends sur le regard
ouais c'est pour ça c'est pour ça donc non après déception non après c'est des trucs tu vois c'est futile c'est lié au travail tu vois mais en vrai non c'est ok enfin moi tu vois je suis souvent l'autre jour j'allais préparer un truc à Roland-Garros une émission à Roland-Garros et c'était une grosse semaine tu vois genre vraiment hyper chargé et là t'arrives à Roland et t'es en mode on va faire l'émission là et t'es en mode ça va tu vois tu relatives t'es en mode bah, c'est ok enfin on fait un truc à Roland-Garros t'as quand même de la chance d'être là aussi donc, petit piqueur de rappel aussi, c'est cool.
Très universel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aussi putain, moi, j'arrive pas à gérer mon planning, je me fais enculer par mes semaines.
Et
vraiment, j'ai
et
des moments
comme
ça. On se
fait enculer par ça.
Ah oui. TikTok, alors TikTok, faudrait peut-être arrêter maintenant.
Ah ouais, je te jure.
Non, moi, j'avoue que je consomme rien. Je consomme très peu, moi.
T'es trop fort.
Ah ouais, je suis tout le temps.
Tu crées quoi?
Ouais.
Finalement, c'est ouf.
Ah, je suis pas un gros consommateur.
Bah, trop fort. Le gain de temps. Incroyable.
Le seul moment où je consomme, c'est vraiment. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que. Justement pour essayer d'aller mieux vis-à-vis du trouble anxieux etc c'est que chez moi il n'y a aucun PC aucun ordinateur où je puisse bosser en fait tu vois.
Mais t'as en effet le portable
Mais je m'empêche en fait tu vois quand quand je suis chez moi je rentre j'essaye de me faire des journées à peu près classiques tu vois je me dis 21h30 grand max j'arrête de travailler tu vois et quand je suis chez moi bah c'est juste détente tu vois mais je regarde je suis pas un gros consommateur des réseaux etc c'est juste film ou podcast tu vois.
Ah donc tu regardes sur la télé
c'est
ça. Ok ah ouais c'est très fort d'arriver à faire ça parce que moi je me dis
en fait je me dis un film et j'évite les séries aussi parce qu'en fait je me dis sinon tu te couches pas ou tu t'as envie d'enchaîner
Ça.
Je me dis un film c'est 1h30 2h tac et je préfère tu vois
Et t'arrives à te garder cette discipline parce que souvent t'as ça t'as une motive pendant une semaine et puis après
bah j'essaie toujours me coucher à minuit et demi grand max tu vois mais c'est compliqué
let's go
En semaine.
Ensemble.
Moi, la dernière.
Attention.
Ah oui, oui, bien sûr.
Toi, dernière déception.
La dernière déception que j'ai eue, c'est. J'ai fait un post sur Instagram il y a un mois en disant la liste des gens. J'ai fait une blague en mode voilà, la liste des gens que je voudrais inviter avant tout plaquer, tu vois. Okay. Genre, une fois que j'ai fait toute la liste, je plaque tout, voilà. Ce qui n'est pas vrai, mais en même temps, j'ai fait exprès d'avoir une liste, voilà. Et dedans, il y a Jonathan Cohen, qui est un gars où vraiment j'ai presque créé un Sony pour Jonathan Cohen. Enfin, tu sais, il y a trop de formats qui marchent trop bien, etc. avec lui, et c'est un gars que j'aimerais trop rencontrer et tout. Et donc je fais ce post, et genre 3 jours après, je reçois un mail de l'attaché de presse où vraiment je suis au téléphone et je vois l'objet du mail en mode interview Jonathan Cohen.
Okay.
Je fais, ok.
Oh, let's go.
Et donc elle me dit voilà, Jonathan Cohen, il est en promo pour son film. Je fais ok, je me fous du film, je veux juste. Tu vois, ok, même s'il fait une mini apparition, ok, c'est parti. Et donc je lui dis Jerry, vas-y, viens, on s'appelle, on parle de tous les formats. Moi, je sors le grand jeu, je fais, oh, on peut faire Insomnie, on peut
avec,
faire ça.
Avec l'attaché de presse, du coup.
Avec l'attaché de presse, ouais. Je lui dis voilà tout ce qu'on peut faire, nanana. Et du coup, elle me dit ah, ok, trop bien. Et on se tient au jus tous les deux jours en mode ouais, ok, bah là, je vois Jonathan demain, etc., etc. On n'a jamais fait cette interview.
Ah, mince.
Et en fait, ça a fini, au moment où je l'ai relancé. Et elle m'a dit ah, mais en fait, non, j'ai pas réussi à le choper. Je suis en mode, mais je comprends pas. Et du coup, en fait, ça m'a hypé pendant genre 2 semaines où j'étais en mode. Ok, j'étais à la limite de l'annoncer sur un live Insta, tu sais, où il y a des gens qui disaient hey, Jonathan Cohen, c'est pourquoi? J'étais en mode, mais vous croyez pas que c'est bientôt? Vous inquiétez pas, ça charbonne.
Il a teasé de ouf.
Et pas du tout.
Aucune réponse.
Et en vrai, c'est hyper, hyper drôle parce que il y a plein de gens qui me disent ouais, pourquoi t'invites pas Orelsan? Ouais, pourquoi t'invites pas Angèle? Pourquoi t'invites pas un tel à tel? Il y a plein de gens qui sont persuadés que moi, si j'envoie un DM, la personne est calée
mais
la semaine d'après.
Mais ça
d'après,
marche
tu vois,
pas du tout comme ça. Comme ça. Mais même sur Twitch, ça fait ça. Tu sais, en gros, on est tous streamers et ils pensent qu'on est tous très potes et on est potes avec beaucoup, mais pas avec tout le monde. Tu peux pas envoyer un message genre.
Bien sûr.
En fait, il y a beaucoup d'intermédiaires aussi entre toutes ces personnes-là.
Ouais,
moi, par exemple, sur ma dernière vidéo, j'ai reçu Zoukoumeizi. Je sais pas si tu connais, mais c'est un membre du 667, donc Frisk Orléans, tout ça. Donc, c'est un côté très. Un peu fermé quand même, tu vois. Et j'ai eu cette idée de vidéo. J'ai un peu un contact dans le label où il est. J'ai envoyé un message. On a échangé. Il y a eu la proposition. Après, Zoukou a dit carrément, je suis chaud. Il m'a appelé. Et en fait, c'est là qu'on a créé la connexion, tu vois. Que si j'avais DM direct, je sais pas si ça aurait eu le même impact, tu vois, que de passer par un intermédiaire, etc.
Complètement.
Donc c'est souvent les gens ils pensent que juste parce que t'es certif ou que t'as le truc, c'est bon, t'envoies un message, le frérot il va te répondre. En vrai, il est en droit de pas te répondre aussi.
Ça peut arriver. Moi, j'ai des invités vraiment où j'ai envoyé un message et ils m'ont répondu et parce qu'ils connaissaient le format, type entre mecs, etc., ou Insomnie et tout. Mais la plupart du temps, c'est des étapes où
attaché de presse, etc.
Attaché de presse, et puis t'as 2-3 semaines de trucs.
Après, c'est un truc. Après, sur les gens d'internet, ils sont plus habitués à recevoir des messages et tout. Donc ils disent ok, mais c'est quand tu sors justement la musique, tu vois.
C'est
en mode, eux, ils sont vraiment dans le truc attaché de presse.
Dans la musique, il y a surtout ça, attaché de presse. Après, t'as le manager. T'as l'agent, il y a beaucoup de.
Puis t'as des logiques de promo. C'est-à-dire
c'est
que
ça,
c'est pour ça, ça que d'ailleurs, Insomnie, la première vraie grosse saison qu'on avait signée avec France TV, c'était en plein Covid.
Okay.
Et du coup, toutes les promos s'annulent. Donc il n'y a plus aucun artiste. C'est pour ça qu'en fait, cette saison-là, elle est beaucoup, beaucoup avec des youtubeurs et youtubeuses, en fait, parce que j'ai appelé des potes et même des gens que je connaissais de loin, mais qui n'avaient aucune promo spécifique.
Alors que
quoi.
Moi, j'ai un livre qui sort bientôt. Non, pas du tout. Alors que non, tu as même bien juste comme ça, effectivement, il n'y a pas trop la logique des promos.
Exactement.
Aussi,
et où là, t'es plus ou moins tout le temps en promo, parce qu'en fait, on peut te retrouver tout le temps et t'as pas
un peu.
Mais pareil, j'avais une discussion. Ah oh, putain, je balance des blazes là, ça y est, on en a plus rien à foutre dans cette émission là.
Tête de miniature.
Ouais, complètement. J'avais discuté avec François Civil, j'avais envoyé un DM à François Civil pour lui dire est-ce que tu veux venir en émission et tout. Le gars m'avait dit qu'il regardait mes émissions, il a dit ah, je kiffe ce que tu fais.
Trop cool.
Il m'a dit mais là je suis pas en promo.
Et là tu l'appelles immense connard. un mec horrible et tout.
Putain,
dur.
Ça serait très dur. Et du coup, donc il me dit je suis pas en promo et tout, donc j'attends un petit moment et je lui renvoie un DM plus tard et tout. Et là, je crois que ça fait en un an, ça fait 2 ou 3 DM que je lui envoie, dont un est-ce que je peux t'envoyer mon livre et tout. Et genre, c'est même pas, genre, ça rêve plus parce que vu qu'il m'a déjà répondu, c'est il me lâche des vues.
Ah,
vraiment.
Merci.
Et tu sais, t'es en mode. T'es un gif, ta vie passe en noir et blanc, tu fais bon, ok. Et tu lâches. Et en fait, et ça se trouve, on va se capter dans 2 ans.
Mais oui,
on sait pas.
Tu feras un pote, enfin, t'en feras un avec Jonathan Cohen.
Exactement, avec tous les. Tu sais, sur tes noms pendant 3 ans.
T'as refusé de venir, toi, pendant 3 ans. Ouais, je me suis dit que c'était le bon moment. Il y avait un film qui sortait. C'était le bon moment, tu vois. Mais ouais, du coup.
Mais d'ailleurs, j'en discute avec des gros youtubeurs qui font des millions de vues et ils ont les mêmes problématiques. Hein. Donc c'est pas que tu vois où ils se disent oh non il fait pas assez de vues quoi, c'est vraiment des trucs d'orgasme.
Après des fois c'est dur de rencontrer ses idoles aussi, tu vois, je pense.
Ouais.
Tu vois, t'as des déceptions
et
tout, tu vois.
J'ai eu ce débat hier avec mon équipe de dire qui on a envie de rencontrer ou pas rencontrer, est-ce qu'on est déçu ou pas.
Ouais, parce que moi je me souviens j'avais eu une aventure avec avec Pierre Ménès par exemple, tu vois. Que okay. moi je regardais.
Tu as un truc sexuel là.
Ah non, mais
j'ai une aventure avec Pierre Ménès.
Alors, pas sexuel. Mais en gros, le mec, moi je regarde, puis je suis gamin, tu sais, dans l'émission foot, tu vois. Et moi j'avais pas trop suivi les histoires, machin.
Ah oui, parce qu'il a eu des histoires il y a pas longtemps.
Ouais, c'est ça, exactement.
Oui, en plus de Harder.
En gros, et moi je le rencontre en plateau où il arrive, tu vois, sur un plateau qu'on faisait sur le stream.
Ok.
Et le mec est. Se comporte pas très bien sur le plateau, quoi, tu vois. Et genre vraiment en direct, tu vois, sur Twitch.
Avec tout le monde ?
Avec tout le monde. Et genre, tu sais, il touche la joue d'une chroniqueuse et tout, machin.
Wow.
Et en live, quoi. Et t'as 10 000 personnes qui regardent à ce moment-là. Ouais. Et du coup, tu te dis, oh ouais, c'est dur, tu vois. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message. Après.
Ah, c'est vrai ?
Ouais. En mode, moi, je vous suis depuis que je suis gamin et j'avoue que j'étais sur le plateau à ce moment-là et ça m'a rendu triste, quoi.
Et t'as rep ?
Ouais, on s'est appelé et tout.
Mais non. Si, ah, si. Il t'a dit,
ouais,
voilà,
on s'est appelé. Ah, ouais. C'est un mec, je pense, qui est ultra maladroit et du coup, qui arrive pas tout à fait à se rendre compte en ce genre des choses, okay, mais ouais. Qui fait quand même la démarche de t'appeler pour comprendre pourquoi, alors que je suis personne, tu vois, pour lui. Mmh. Lui, dans les milieux de la télé, etc., machin.
Mais tu l'as senti à l'écoute quand tu lui expliquais les trucs.
C'est ça qui était bizarre. C'était qu'en gros, le mec était brut de pomme. Et il l'est, tu vois, quand il dit les choses, mais en même temps, il fait la démarche de t'appeler. Du coup, il y avait ce truc un peu bizarre aussi, tu vois. C'était pas mon idole, Pierre Ménès, j'ai pas abusé, mais c'était une figure en tout cas de mon enfance et tout. Et du coup, c'était assez particulier comme épisode. Ouais.
Moi, il y avait Mehdi Maizi, incroyable.
Ah bah oui, Mehdi Maizi, ah, très sympa. Trop sympa.
Cool. Il est trop cool, ouais.
Vraiment.
C'est clair.
Bah, moi, j'ai commencé la radio grâce à ça, tu vois. Enfin,
c'est
genre,
vrai
en fait, j'ai toujours voulu apporter quelque chose à la culture rap, hip-hop. Je me suis dit, mais je, à part rapper, je sais pas quoi faire en fait.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à écouter ses podcasts, etc. Quand j'étais au début de la fac. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est trop cool en fait. Genre, tu peux être journaliste rap. Je me disais, ça n'existe pas en fait. Tu vois, en fait, ça peut être trop cool.
C'est comme les testeurs de jeux vidéo. Ouais, ça, et après, le stream est arrivé.
Et du coup, ça m'a donné envie, tac, petit à petit. Après, j'ai pas suivi tout ce qu'il faisait aussi. Mais tu vois, ça a été une figure qui m'a donné envie. Et en décembre dernier, on a tourné un truc ensemble. T'es là, t'es en mode,
c'est ouf,
trop cool, tu vois. Lui, il est arrivé en détente à la gare d'Angers. Moi, j'étais en mode, oh, putain.
Petite blessure un peu, ouais.
Bah ouais, tu vois, dans le fond. Mais trop cool, c'est une crème. Et vraiment, il est trop fort.
J'en mets un.
Quel idole vous aimeriez rencontrer ? Toi, tu as dit.
Moi, je pense que Frédéric Lopez.
Frédéric Lopez.
C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer.
Rendez-vous en terrain
inconnu.
Je n'avais pas la réponse, désolé.
Et même, en fait, c'était le premier. La parenthèse inattendue, ce que tu as dit. Mm. Je répète tout ce que tu dis, d'accord. Je suis un écho. Vraiment. Et c'était un des premiers à avoir fait des primes sur TF1, je crois, autour du bonheur.
Okay.
Plateau entier, et on parlait de bonheur. Il y avait des psychologues, des philosophes qui étaient là.
Okay, c'est
toute la question, tu sais. Moi, j'étais gamin, quoi. Et je regardais ça, j'étais en mode, waouh, on peut avoir ça en émission et tout. Incroyable.
C'est ouf.
Et du coup. Je l'ai jamais contacté. Et après, Alain Chabat, évidemment, que j'adorerais rencontrer.
Ouais, évidemment.
Non, mais le premier rappeur. Hein.
Oui, c'est
premier
rappeur
français.
C'est vrai. Ah. C'est vrai.
C'est son fils qui avait dit ça, il a enregistré des sons et tout.
Ah ouais ?
Ah, vraiment ?
Ah, je savais pas.
Mais il a jamais rien qui est sorti, ouais.
Non, jamais.
Et un jour, ça sortira.
Quand je serai riche, j'irai voir son fils. Je te donne ça et tu me sors le.
Oh là là. Et toi, t'as rencontré Mehdi Maizi, mais tu serais en mode. Serait lourd de rencontrer qui et de discuter. À qui t'aurais le temps, tu vois ?
Je pense. C'est compliqué, hein. Si je dois en choisir qu'un, là comme ça.
C'est un rappeur
C'est compliqué. Hein.
C'est un rappeur, déjà ?
Ouais, rappeur, ouais.
Ok.
Je pense. Mais pareil, barrière de la langue, tu vois. Genre un Kendrick, tu vois, par exemple.
Ah ouais.
Ce serait incroyable, tu vois.
Et tu parlais de quoi ? Tu parlais de musique ? Vraiment de ça ou tu
Je parlerais de la vie.
Ouais, c'est ça, ok. Ça, c'est marrant parce que du coup, tu es rappeur, mais tu lui parlais pas de rap, tu vois. Tu parlais de la vie.
C'est
pas marrant.
Je pense que plus sa vision, en fait. En fait, j'aimerais bien discuter avec des rappeurs que j'écoute, qui sont encore émergents ou des choses comme ça. Mais je pense qu'un artiste qui est vraiment en place, qui vit de ça depuis des dizaines d'années et qui est vraiment qui est mondial,
ouais, qui en fait, a pas faim de réussir,
c'est
pour,
ça, tu vois,
pour vivre, tu vois.
Il doit avoir une vision du monde qui doit être tellement différente.
Ouais.
Ça doit être incroyable, je pense.
Ouais, puis dans chaque volonté artistique, il y a le côté musical, construire le truc et tout, mais il y a aussi qu'est-ce que tu racontes, quoi.
C'est ça.
Et donc en fait, ce que tu racontes, c'est à travers ce que tu vis et tout, et ouais, c'est ouf.
Ou Eminem.
Ah ouais.
Et après, on parle.
Putain, j'ai re-regardé 8 Miles, là.
Ouais.
Quelle folie.
Sacré. Ouais.
Ce serait qui, toi ?
Ah, c'est chaud hein, de savoir, je sais pas. Moi, je suis pas très fan de... J'ai pas été fan peut-être d'artistes musicaux ou genre de choses. Et moi, il y a Pierre Ney qui me fait bien kiffer en ce moment, parce que je regarde énormément de films et tout. Mmh. Et puis le mec a l'air cool, tu vois, quand il était passé à plat de popcorn et tout. Moi, j'aurais plein de trucs à discuter avec lui parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au rap, lui rentrait dans le game avec Yves Saint Laurent, etc. aussi. Okay. Donc, moi, j'ai En fait, je l'ai vu maturer en même temps, moi aussi, commencer à regarder beaucoup de cinéma. Non, après, ce serait beaucoup de sportifs. Moi, j'ai beaucoup de fascination pour les sportifs et pour ce qu'ils ont réussi, pour ce qu'ils réussissent à accomplir. Donc, je pense que ce serait des mecs comme peut-être Johnny Wilkinson, qui était en gros un joueur de rugby. Ouais. Et en fait, c'était un joueur de rugby anglais. Et genre, qui était un joueur. Enfin, nous, on est français, donc on déteste les Anglais au rugby. Mais il y avait lui qui avait une classe incroyable sur le terrain, qui a fait gagner une Coupe du Monde en Angleterre presque à lui tout seul. Et ouais, ça fait partie des mecs où tu te dis, waouh,
wow, grand
c'est
boxeur, tu
c'est
vois
la classe, tu vois.
Ouais, ouais, ouais c'est ouf. Incroyable, tu vois.
Ouais, le boxe, c'est un truc particulier, genre ouais, Cyril Gane aussi, tu vois, par exemple.
Cyril Gane, ouais, mais.
Un Teddy Riner a l'air hyper sympa.
Ouais. Il est bon vivant apparemment.
Tu l'as... Ah oui, j'aurais été.
Il est non, mais tu vois, qu'il est jovial, etc. Voilà quoi, tu vois. Évidemment.
Mais ouais, même plus récent, tu vois, Mayweather et tout, tu vois, c'est des mecs qui sont perchés, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent
pour le coup, c'est clair. Perché, le bon terme, à mon avis, ouais, clairement.
On arrive déjà à la fin de cette émission.
Ah, déjà ? Ok.
Eh oui. Où est-ce incroyable. Qu'on peut vous retrouver, chacun ?
Moi, sur YouTube, on va pas dire toutes les semaines, mais on va dire que sur YouTube tous les mois,
bien
c'est
sûr.
Bien.
Quand est-ce que tu sors un album de rap ? Est-ce que tu rappes, toi ?
J'ai, à mes heures perdues, fait quelques fois.
Peut-être un jour, alors.
Peut-être un jour, mais chacun son métier.
Ouais.
Moi, pour l'instant, c'est pas. Dans mes compétences, on va dire.
Quand t'arrêteras
pas dans mes envies.
Tu feras un revival.
Ouais, c'est ça. Non, je bosse sur des projets aussi.
Trop bien.
Je t'en ai parlé, tu sais, à peu près.
Absolument. Voilà.
Je t'ai demandé
YouTube, Insta,
conseils.
Quoi.
Voilà, c'est ça. YouTube, Insta, principalement.
Trop bien.
Let's go.
Peut-être TikTok, on va essayer de
ah,
se
motiver. Ah, oui, allez.
J'en avais fait, mais après, j'ai abandonné. Parce que ça me saoule de faire du montage TikTok. Si je trouve quelqu'un qui est chaud.
La faute des gens.
Il faut trouver des gens, c'est clair. Moi, sur ma chaîne Twitch, Rivenzy, presque tous les jours.
Okay.
Ouais. Allez, à Twitch, on n'a pas le choix. Hein.
Vous êtes trop fort. Ouais, franchement, vous êtes trop fort.
Ouais, tu fais combien d'heures
tous les jours ? Par jour, on est à entre 5 et 6 heures, je pense, à mon avis, de live par jour.
T'as des horaires à peu près fixes ?
Ouais, 10 heures jusqu'à 16 heures en général. Okay. On est à peu près là-dessus. Le mercredi soir, on fait des trucs histoire avec des historiens. Et le samedi, on a l'émission de sport. Donc, du coup, on a pas
trop
mal
de
gros
et
projets.
Tu fais du lundi au dimanche ?
Du mardi au dimanche, en gros. Du mardi au dimanche. Et donc, évidemment, on retrouve sur YouTube aussi les rediffs et ce genre de choses. Et voilà. Et Instagram aussi, évidemment, Rivenzy.
Chambé.
Merci pour
Rive, est-ce que je peux te demander
bien sûr.
De regarder cette caméra et, de conclure cette émission avec une voix off que tu sais si bien faire le reportage.
Ah, une voix de reportage. Bon, on peut essayer. Aujourd'hui, nous étions effectivement dans Tartine de Vie avec deux superbes invités. C'était un bonheur exceptionnel. Mais que se cache-t-il derrière ces sourires, derrière ces bonheurs, derrière ces malices de ces différents youtubeurs animateurs du web ? Vous le saurez très bientôt en suivant les réseaux des différents invités.
Tartine de Vie, c'est la tartine de Véo, c'est la tartine de Véo, c'est la tartine de Véo. Tartine de Véo, c'est la tartine de Véo, c'est la tartine de Véo, c'est la tartine de Véo.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.